Podcast.
Combien de temps la magie durera-t-elle ?
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 40 du Roi Steven. On est tous là et c'est cool. Alors c'est comme d'habitude, mais moi ça me fait plaisir quand même. Salut tout le monde !
Bonsoir ! Salut.
Bonjour, bonsoir !
Alors avec moi quand même, on fait un petit tour de table. Si jamais quelqu'un écoute cet épisode en premier, n'a jamais écouté tous les autres. Il y a donc Emeric.
Bonjour, bonsoir.
Urd.
Bonjour, bonsoir.
Grand Poil.
Bonsoir.
Émilie.
Et bonjour.
Et Julien.
Et last but not least, bonsoir.
Non, et last but not least, Pam.
Ouais.
À la présentation.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Et ça va bien.
La forme. Oui, oui. Nous fait le plaisir d'avoir un magnifique fond vert à base de chat sur une part de pizza qui vole dans l'univers.
Dans l'espace.
Dans l'espace.
C'est magnifique.
C'est la base.
Ça a l'air tellement
cool. Je remets les explosions si vous voulez, mais je pense qu'on va avoir des crises de.
Ouais, non, vaut
mieux. L'épilepsie, ça peut arriver, voilà. Effectivement.
Ouais.
Emeric, de quoi allons-nous parler ? Alors attends, avant de que tu nous expliques,
oui.
On a Corwi sur le Discord du label Podcut qui pense que tu vas parler de la chanson Country au Susanna.
Eh bien non, nous allons parler du tome 6 de La Tour Sombre, le chant de Susanna, car nous n'avons pas le temps. C'est un épisode dense avec beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de questions auxquelles on va devoir répondre à la fin de l'épisode.
Quel
donc j'ai décidé de faire rapide et de vous dire que le chant de Susanna ou Song of Susanna en version originale est un roman de Stephen King écrit par Stephen King, publié sous le nom de Stephen King. Roman sorti en France en mars 2005 dans un format papier avéré environ 522 pages, et aux États-Unis il est sorti l'année d'avant en juin 2004 avec environ 432 pages. Il fait environ 14 heures dans mon livre audio en anglais. Je sais pas combien il fait en
français. Train de regarder.
14 heures, c'est pas mal. Hein.
14 heures, c'est pas mal.
J'ai une question, Émeric. Si oui. Corwi n'avait pas fait une prédiction sur ce que t'allais dire, est-ce que t'aurais fait comme d'habitude ou
alors,
pas, ou tu voulais juste
Je cherchais une chanteuse qui s'appelle Susanna, et en fait, j'ai pas trouvé de chanteuse, obscure. Susanna. pour faire un petit blabla. Donc, ça m'arrangeait bien.
Ça sera pour la prochaine
0
fois.
0 sera 4, t'inquiète.
C'est vrai que t'auras une deuxième chance le mois prochain avec le deuxième parti.
Je sais pas si on aura le temps.
En VF, le livre, donc sur Audible, fait 17h55 minutes. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'il est sorti quand on a commencé à lire ce bouquin.
C'est vrai que c'est récent, celui-là.
Il est lu maintenant par Nicolas Justamont, qui remplace. J'ai oublié son nom.
Jack France.
Voilà, décédé, du coup, qui a pas pu continuer.
Jean-Louis, juste après.
Et
faire que des blagues de merde.
J'ai pas tout écouté. J'en ai écouté une bonne partie quand même par ce monsieur. Et c'est vraiment très agréable à écouter. Il fait beaucoup plus les voix. Enfin, il différencie beaucoup plus les voix que son prédécesseur. Donc, c'est plus facile à écouter, je trouve. Donc, n'ayez pas peur du changement.
Très bien. Il faut embrassons le changement.
Et on va passer aux avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais commencer par Grand Poil.
Non, c'est dans la directe continuation de celui d'avant. C'est vraiment, il n'y a pas de pause. J'ai bien aimé le lire. Je pense que c'est vraiment loin d'être mon préféré. C'est vraiment le tome de transition avant la fin. Il est long et t'as un peu le cul entre deux chaises entre ce qui est dedans, ce qui se passe. Donc, j'ai passé un bon moment à le lire. Au final, j'en retiens toujours pas grand-chose de celui-là. Il imprime pas comme on a pu imprimer les précédents. Donc j'ai hâte qu'on arrive au 7, parce que celui-là, il bien, mais sans plus.
Ok, Julien.
En fait, il se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose sur... je sais pas, ça fait 300 pages, ce qu'on a lu, un peu moins.
À peu près.
À peu près, ouais.
Mais je me suis pas ennuyé pour autant. C'est juste que je sens que ça se prépare, quoi. Un peu comme le tome 5, mais moins bien que le tome 5. Enfin, moins bien que la préparation du tome 5. Moins de tension, parce que ils sont pas tous ensemble à battre la même menace. Là, ils se séparent et tout. Je suis agréablement surpris par les passages sur Susanna et ses autres personnalités. Je pensais que ça allait être chiant, et finalement j'ai bien aimé. Ça conforte mon idée que mon personnage préféré est Eddie dans la Tour Sombre. Mm-hmm. Et voilà. Mais tout le passage, quand on va dire la deuxième partie où ça partait bien, il y a de l'action et tout. Après, je trouvais ça un peu chiant et j'attends de voir où ça va.
Ok. Pomme, toi qui as dû prendre des notes en même temps, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi j'ai bien aimé, c'est un peu le... En fait, alors moi j'ai lu que la moitié, hein. Grand Poil il l'a lu en entier, enfin il connaît déjà l'histoire. Moi j'ai lu que la moitié, sur cette moitié-là, je trouve que c'est le genre de bouquin pas mal pour l'été en fait. C'est-à-dire que tu t'ennuies pas à le lire, en gros je crois que là dans la première partie j'ai retenu 3 infos. On va dire deux révélations et un truc qui te met sur la voie de peut-être quelque chose, donc 3 infos importantes, pour moi en tout cas. Mais le reste, c'était pas de l'ennui pour autant, et en même temps, j'ai pas eu à prendre beaucoup de notes. Mais c'est pas comme les fois où j'ai pas pris de notes parce que c'était juste chiant, c'est juste que pour un résumé, c'était pas nécessaire de préciser autant. Donc voilà, c'était. Si la suite est pareille, je l'aurais vite plié, et je l'ai lu assez vite en fait au final. Voilà.
Ok, Urde, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, un peu pareil que vous. Il se passe pas tant que chose que ça, mais je me suis pas ennuyée non plus. Après, les révélations, j'ai trouvé ça bif-bof, mais on verra par la suite. Et je pense qu'il y a un petit capital explosion qui a penché dans la balance. Mais globalement, ça a été facile à lire. Alors que, comme on disait, on a une édition où c'est écrit tout petit avec du papier style annuaire. Donc au début, j'ai eu de la peine, mais après, ça a passé. Donc en fait, j'attends la suite parce que là, c'est plus un sentiment de frustration en plein milieu du tome.
Okay. Je suis assez d'accord que la qualité du papier, c'est vraiment bizarre. Alors je pense que c'est toutes les éditions que j'ai lues qui sont un peu comme ça. C'est le papier, moi, quand je le lis, j'ai pas les doigts spécialement gras, mais j'arrive à effacer l'encre des pages juste en gardant le doigt appuyé dessus pour entre deux pages, en le temps de le lire, quoi.
Ouais, mais c'est de l'impression bon marché, hein. Ça, c'est.
À la base, c'est un peu le principe du livre de poche à l'origine. Le livre de poche, c'est le machin à usage unique.
Tout à fait. Mm-hmm.
Ou presque. Bon. Après, ça serait bien que les prix suivent, mais bon.
Et Émilie, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé quand tu l'as lu?
Mais je l'ai relu.
Ah, tu l'as relu?
Oui.
Ah oui, la Tour Sombre, tu relis, c'est vrai. La Tour Sombre, tu relis.
Je relis la Tour Sombre. Sachant que, alors, je l'ai fini de le relire il y a 2 mois, et sur cette partie, j'ai, comme Grand Poil, ce truc où il me marque pas, et après, comme un peu la vie générale, pour autant, il se passe pas des masses de trucs. Je suis pas intéressée partout, notamment toute la partie de Susanna, c'est pas vraiment quelque chose que j'accroche. C'est loin d'être mon personnage préféré, donc c'est un peu long. Et pour autant, c'est pas si long que ça. Ça se lit assez bien. C'est un voyage plutôt tranquille, donc c'est plutôt agréable sans rien transcender. Et on sent que c'est même pas une transition, c'est une installation d'une transition, quoi. Donc là, on sent que peut-être il y a des choses qui vont s'installer dans les prochains tomes. De toute façon, c'est bientôt fini, donc à un moment donné, il va falloir accélérer. Mais non, ça se lit bien, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus marquant et de meilleur de ce qu'on a lu du cycle jusque-là, quoi.
Ok.
Et toi, Emmerich?
Moi, je rejoins un peu vos avis. Il se passe pas énormément de choses. C'est pas les péripéties auxquelles on a été habitué, notamment avec la fin du tome 5, la grosse bagarre. Et du coup, il y a beaucoup de, il meuble beaucoup. Il y a beaucoup de digressions, de remplissage. Mais pourtant, c'est peut-être parce que je l'écoute. J'ai pas eu l'impression, enfin, j'ai pas été aussi lassé et, comment dire, près de lâcher. J'ai pas été autant que d'autres romans où il fait du remplissage. Là, j'ai trouvé que le remplissage était se laisser écouter, que et du coup, ben ouais, je trouvais l'écoute sympathique, l'histoire s'enchaîne bien. On en a suffisamment pour de développement de l'histoire pour que ça passe quoi. Et je trouve qu'il est agréable à lire, que c'est un. J'attends de l'avoir lu en entier pour avoir un avis définitif, mais je pense que c'est un peut-être probablement un roman, enfin une de transition entre le 5 et le 7 pour amener des éléments qu'il a voulu faire un vrai volume plutôt qu'un truc condensé ou rapide, peut-être pour éviter que le 7 soit encore plus gros qu'il ne l'est. Ou de faire un épilogue interminable au 5, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne lui tiens pas rigueur de ses longueurs.
Mais
c'est
déjà ça.
Je trouve que ça se sent que King aussi lui-même, enfin, il a évolué dans son style d'écriture, que tu as vraiment l'impression qu'il sait où il va. C'est pour ça aussi que je pense qu'il arrive à te garder intéressé dans ce qui se passe, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière. Tu sens la mise en place. T'as envie d'en savoir plus. Mmh. Et c'est pour ça aussi que,
tout à fait,
même si quelque part il marque pas, il est bien écrit et il se lit vraiment bien.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, il connaît bien ses personnages, il connaît très bien les mondes dans lesquels il évolue. Et même nous, là, on est quand même au 6e tome. Ça fait quelques milliers de pages qu'on se coltine, entre guillemets, ces personnages-là. On y est aussi attaché. Donc même les moments où il se passe plus grand-chose, on sent que c'est de l'installation. On est assez attaché à eux et à ce qui va leur arriver pour que ça coule quand même tout seul, quoi. Mais c'est sûr qu'après le 5, en effet, après la fin du 5, ça paraît un peu léger.
Ouais, mais justement, alors...
Ça encore, fait une pause, c'est bien.
Comme je l'ai dit plein de fois, un bouquin, ça dépend aussi tellement de quand tu le lis et de l'état d'esprit dans lequel tu le lis, que peut-être à un autre moment, il m'aurait fait chier ou à un autre moment, il m'aurait passionné. Là, il tombait pile parce que, du coup, vu qu'on a fait des nouvelles cet été et qu'on a mis un peu de temps à enregistrer celui-là, bah, j'ai pu lire d'autres bouquins. Et du coup, d'avoir là un livre qui se lit facilement et se résume facilement, eh ben, ça m'a plu parce que j'étais pas à la bourre, j'ai fini il y a 2 jours et sans stresser, en fait. Donc, ouais, franchement, c'est là, à ce moment-là, pour l'instant, il fait du bien, en fait. À ce moment-là, il tombe bien. C'est un peu le trou normand, quoi. On sait que le dessert va arriver, qu'il va être fat, mais on espère qu'on va se régaler. Et là, du coup, voilà, on prend une petite liqueur, une petite glace, ça fait du bien. On va danser un peu, on revient, voilà.
On rappelle que le trou normand, c'est une glace à la pomme avec du calva et rien d'autre.
Exactement. Tout à fait.
Là, c'est ça, une liqueur, une glace. Et après, on verra, si ça se trouve, la deuxième partie du tome 6, c'est de la grosse daube et ça va nous faire chier d'avoir 250 pages identiques aux 250 premières pages. Je sais pas, on verra. Mais pour l'instant... À la moitié, voilà. Mais donc, du coup, Émilie, ce que tu nous dis, c'est que, bon, tu l'as relu il y a 2 mois, mais tu l'as pas relu depuis, finalement. Toujours pas, quoi. Tu relis pas pour le...
Mais si, je l'ai relu pour Le Roi Stevens. Je prends de l'avance. Il y avait Billy Summers qui sortait cet été. Et je prends de l'avance pour le colossal tome 7 qui nous attend. Vu que je suis une lectrice assez lente, je débute la lecture ce week-end, sinon je m'en sortirai pas, quoi.
Ouais, et puis nous, on a Insomnie entre deux à lire.
Oui, et voilà. Et moi, je relirai pas Insomnie.
Ah, il est posé sur ma table tous les jours, je le regarde, j'essaie de l'apprivoiser un peu.
T'arrives pas à le bouger.
Ah ben, il cale ta table là, y'a pas de soucis.
Ah ben, si je le bouge, j'ai peur que la table elle perde son équilibre et qu'elle se pète la gueule. Hein.
Oui.
Bon.
Bah, faut y aller.
Vous avez des choses à rajouter ou pas?
Non.
Let's go.
Prêt, on est chaud.
Ok, let's
Allez.
Go.
Je bois un petit coup d'eau. XIX, reproduction.
Premier couplet, tremblement de rayon.
Le début de ce tome, comme on l'a dit, est la suite directe du tome précédent et ça fait plaisir. Petit rappel rapide. Dans la Cala, les habitants font la fête. Les loups sont morts, aucun jumeau n'a été raflé et finalement il n'y a que, entre guillemets, 2 morts. Mia a pris le dessus sur Susanna et est partie par la porte de la grotte avec la 13e noire et avec son bébé démon sur le point de naître. Dans la grotte, Roland a montré un livre que gardait Calvin Tower, le libraire. Il s'agit d'un roman du nom de Salem, écrit par un illustre inconnu du nom de Stevu King. Le problème, c'est que ce livre raconte mot pour mot ce que Callahan a vécu à Jérusalem Slot, même des choses dont il n'a jamais parlé à personne. Sur la couverture de ce livre, l'église qui est dessinée est exactement la même que celle du village dans lequel Calvin Tower se planque et que la salle du conseil de la Cala. Est-ce que vous avez des éléments importants à rajouter avant d'attaquer ce qu'il y a dans ce tome ?
Je voudrais juste rajouter un truc sur le... Justement sur le... Mince. Ah, pourquoi j'ai plus son nom ? Sur le père Callahan.
Oui.
J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, la manière dont ça avait été, dont c'était montré sa lutte, même pas intérieure, le fait qu'il soit aux prises avec est-ce qu'il est réel ou pas, est-ce que, enfin, qu'il ne veuille pas croire que sa vie puisse avoir été racontée dans un livre, surtout jusqu'à ses plus intimes pensées, quoi.
Il est inquiet et serein en même temps, je trouve.
Il y a un peu ça. Il est surtout inquiet. Il veut vraiment pas y croire. Enfin, t'as l'impression il suffirait d'une petite pichenette pour qu'il bascule complètement dans la folie, le père Callahan, à ce moment-là.
Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le tome précédent qui pourrait être utile pour le tome à venir?
Non, je pense que t'as tout.
À ce stade,
prends ce silence pour un nom. L'histoire commence avec nos joyeux lurons qui sont au fond du trou du précipice du Savapa. Roland, Jake et Eddie sont chez Callahan avec Enchik et Cantab, les Mani. Une des personnes mortes dans l'attaque des loups est une des petites filles d'Enchik qui avait épousé un non-Mani. Elle s'appelait Margaret. Roland essaie de savoir combien de temps dure le Kaven, c'est-à-dire la persistance de la magie. Notez-le dans vos petits carnets. Réponse, ça dépend de la force du sort. Merci pour cette réponse.
C'est pratique.
Est-ce que tout le monde a bien noté ?
Oui, il a fait un ta gueule, oui. C'est magique.
On avance. Roland voudrait que la porte de la grotte s'ouvre sur les deux derniers endroits sur lesquels elle s'est déjà ouverte, c'est-à-dire le village de Calvin Tower et là où est Susanna, que l'on va appeler parfois Mia selon la circonstance. Des fois, on va l'appeler Odetta, des fois on va l'appeler Detta, des fois on va l'appeler Susanna Mia, des fois Susanna Mio. Accrochez-vous, voilà.
Et Suze.
Donc l'idée, je l'appelle jamais Suze. Donc l'idée, là...
Le saviez-vous ? La Suze n'a pas le même degré d'alcool entre la France et la Suisse. Elle a 20 degrés en France, en Suisse, pardon, et 15 ans en France. Pour une histoire de taxes.
C'était vraiment très intéressant.
Merci.
Je ne savais pas. À part que c'est dégueu, je ne savais pas.
Et on fait un bisou à Techmar, qui est un fan inconditionnel de Suze.
Mais il est VRP des Suze, non ?
Ouais, je pense qu'il a des actions.
L'idée là, c'est que tous les Mani joignent leurs forces spirituelles pour ouvrir la porte, mais pas avant demain. Eddie, de devoir attendre, ça le rend fou. Mais il n'a pas le choix. Même s'il le voulait, ce serait matériellement et humainement impossible de se mettre en position avant le lendemain. Susanna, ou plutôt Mia pour l'instant, s'est barrée avec la treizième boule noire. Enfin, la treizième boule qui est la noire, en fait, puisque les autres sont pas noires. Eddie dit qu'il vendrait son âme pour tenir la boule dans ses mains là tout de suite. Tout le monde réagit comme s'il avait blasphémé et pas à cause de l'idée de vendre son âme. Eddie est désespéré, mais Roland pense que Susanna peut s'en sortir. Après tout, elle est un pistolero, et même si c'est Mia qui est aux commandes au moment de passer la porte, il est fort possible qu'elle ait besoin de Susanna une fois de l'autre côté.
On sait déjà qu'ils vont atterrir dans un monde qui va être sûrement proche du nôtre et que Mia, elle connaît rien à la vie globalement.
C'est ça.
La nuit venue.
Le saviez-vous ?
Chacun.
Ça a duré 4 heures.
Je te vends mon âme est une très belle chanson de Kyo de l'album Le Chemin. Voilà.
Est-ce que on aura des jingles, le saviez-vous ?
Je peux t'en faire un si tu veux.
Tu vas en faire un là maintenant ou pour tout pour le montage ?
Non, au montage.
Ah oui, d'accord, donc j'attends pas, ok. La nuit venue, chacun rentre dans ses pénates et Rosalita et Roland baisent puis se font leurs adieux. Les problèmes d'arthrite de Roland sont de plus en plus violents. Rosalita lui conseille d'achever sa tâche avant que celle-ci ne l'achève. J'ai l'impression que c'est moi le matin au boulot quand on fait les délits.
Mais le contre-la-montre continue à s'accélérer et à s'accentuer pour Roland sur sa quête de la tournoire avec justement ses problèmes d'arthrite qui vont probablement finir par le rendre infirme et il sera plus un pistolero à partir de ce moment-là, quoi. Mm.
Est-ce que c'est comme dans Sons of Anarchy, où ils peuvent plus faire partie du gang à partir du moment où ils peuvent plus monter sur leur moto? Est-ce que là, il est plus un pistolero à partir du moment où il ne peut plus monter sur son cheval?
Le saviez-vous? Stephen King a participé à un épisode de Sons of Anarchy.
Non, après, en vrai, je pense pas, parce que j'ai l'impression que les pistoleros, c'est soit tu te fais virer parce que t'as fait une connerie, soit tu meurs.
Ouais. Mais
plutôt, et plus pouvoir tirer avec son arme, ça joue pas.
Moi, je pensais plutôt à ça, parce que l'arthrite, c'est surtout dans les mains, non? Enfin, lui,
oui,
il parle...
Lui, c'est partout, c'est les mains, les hanches,
ouais,
apparemment, il a un
c'est
truc
ça,
très
donc,
violent,
ouais. Du moment qu'il peut plus tirer, il est plus pistolero pour moi.
Je pense qu'il reste pistolero, mais qu'effectivement, il est plus très utile aux quatre-têtes,
voilà.
Dans ce sens-là.
Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos, donc on verra si on en apprend plus plus tard. Alors que Jake et Eddie déversent leur seum dans la cuisine au lieu de dormir, un énorme tremblement de terre secoue toute la cala. Roland, Rosa et Callahan débarquent dans la cuisine. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il vient de se passer, un rayon a lâché. Pas le leur, sinon tout aurait été détruit à 200 km à la ronde. Le leur, c'est le rayon de l'ours sur la voie de la tortue, pour rappel, notez-le. Dans l'autre sens, c'est le rayon de la tortue sur la voie de l'ours. Hein,
c'est bon, ça. Voilà.
Faut pas se tromper. Et au milieu, il y a la tour. Rosa et Roland se mettent à réciter la poésie de la tortue. Regarde la tortue, comme elle est ronde, sur son dos, elle porte le monde, etc., etc. Je sais pas si ça a un intérêt de raconter ça à ce moment-là, mais voilà, je vous le dis.
C'est toujours
Roland précise...
C'est toujours plaisant à entendre.
Roland précise que ce n'est pas le premier rayon qui lâche. Il pense d'ailleurs qu'il n'en reste que deux et qu'il va falloir se bouger le cul avant que tous lâchent. Mais qu'ils ne vont pas laisser Susanna sur le bord de la route pour autant. Roland est devenu sympa ? Pas du tout. Ils ont besoin d'elle pour mener à bien leur quête et surtout de son bébé.
On est d'accord que là, le fait qu'ils disent il en reste deux, c'est, comme on dit dans le milieu professionnel... jugement d'expert, quoi. Parce que nous, on n'en a aucune idée.
Oui, oui.
C'est un chiffre.
J'ai trouvé aussi, mais bon, il a quand même été témoin de plusieurs trucs. Donc c'est pas...
Il a été témoin de pas mal de choses. Il a probablement assisté à la destruction d'autres rayons.
Alors, même lui, il dit qu'il suppose qu'il n'en reste que deux. C'est une évaluation. Il ne l'affirme pas. À ce moment-là.
Ouais, mais j'ai aussi trouvé que c'était... Parce qu'après, il part vraiment du principe qu'il n'y en a que deux, quoi. Donc, bon...
Ouais, mais après, si l'expert dit, a priori, il en reste que deux, mais je suis pas sûr à 100% et que tout le monde dit, ah, il a dit qu'il en restait que deux, bon, ils ont pas écouté l'expert.
Après, il a peut-être compté les tremblements de rayons depuis qu'il est dans sa quête de la tour sombre.
Oui, c'est possible.
Bon, enfin, bref, personne n'est tout à fait détendu, mais à part attendre qu'un nouveau jour se lève, on ne peut pas faire grand-chose. On apprend dans ce passage que Jake a décidé de n'utiliser consciemment le Shining qu'en cas de situation critique. Le lendemain, les villageois se réveillent.
Qui est le loup-garou ?
La référence, la magnifique référence, pas du tout obvious.
Deuxième couplet. J'étais dessus. Deuxième couplet, persistance de la magie.
Enchik a réussi à réunir 40 personnes pour leur venir en aide. Callahan demande à Jake si Susanna est encore en vie, et Jake répond que oui, sans hésitation. On comprend alors qu'il est relié à Susanna d'une certaine manière, mais qu'il aurait aimé que ça ne se sache pas.
Pour moi, c'est grâce à son Shining c'est le seul qui entend les hurlements de Susanna. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans le bouquin. C'est comme ça qu'il le sait, en fait.
Oui,
dans quel cri elle n'est pas morte. En gros. Il a aussi l'impression que quelque chose la recherche et pourrait les entendre parler d'elle ou penser à elle. En tout cas, Jake entend Susanna hurler quelque part dans sa tête. Tout le monde se met en branle après des rituels magico-mystiques. Il y a dans le lot une paire de manies vraiment vieux. Le quatet se demande s'ils vont pouvoir arriver à la grotte de la porte, parce que le chemin est quand même escarpé et tout.
Oui, même lui, il avait galéré.
Et le tremblement de terre quand même aussi.
Le chemin se fait et les voilà dans la grotte. Plus aucune voix ne résonne, puisqu'il y avait des voix qui venaient du gouffre derrière la porte. Eddie a l'impression que la porte n'est plus qu'un morceau de bois. Enchik tente de lui prouver que non avec un pendule et effectivement, lorsqu'Eddie le prend en main, il ressent des vibrations et le bidule se met à se balancer de plus en plus fort et à peser de plus en plus lourd. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce qu'il fait exactement, mais en tout cas Eddie est convaincu que c'est pas juste un morceau de bois.
Ta gueule, c'est magique.
Après avoir fait des tests,
c'est un pendule.
Ça devient de plus en plus lourd, un pendule ?
Non.
Non, mais c'est un truc qui est souvent comment dire utilisé pour représenter la présence de magie quelque part. Quand tu sais, quand il est dans les séries, tu les vois qui cherchent des gens, ouais, avec un pendule.
Ouais, bah, ça te donne là, les directions.
Tu dis ta gueule, oui, c'est non. Magique, là c'est littéralement magique.
C'est oui, mais c'est les manies. C'est de la magie. C'est les manies, ouais. Tu vois, c'est magique, ça. Les manies. Là c'est un peuple magique.
Après avoir fait des tests et avoir mis les choses au clair pour pouvoir être efficace, tout le monde se met en place pour que l'aventure commence vraiment. Bon, pas vraiment en fait. On continue de s'installer encore un moment. À l'ouverture de la porte, c'est Jake et son Shining qui seront devant et ça ne sera pas agréable pour lui. La porte s'ouvrira deux fois. Une fois pour trouver Susanna et une fois pour rejoindre Tower et Dipno. Eddie se rend compte qu'il n'en a plus rien à secouer de Tower et de la quête de la tour. Lui, tout ce qu'il veut, c'est Susanna.
Il va pas être déçu du voyage.
Et je pensais que ce paragraphe serait le début de l'histoire, mais pas encore. Il y a encore de la mise en place. Jake doit dire au revoir et peut-être adieu à Hoth. Tout le monde pleure, même le bafouilleux. Roland décide que Eddie et lui iront sauver Susanna pendant que Jake et Callahan iront chercher Tower. Iront chercher Tower. On fait des prières, encore, et les manies s'installent pour l'ouverture de la porte.
C'est long, la magie.
Ouais. L'ouverture de la... Ouais.
J'ai pas trop compris pourquoi il doit abandonner Hoth. Après tout, c'est un membre du Quatet. Et est-ce que ça voudrait dire que les gens de ce côté-là de la porte ne peuvent pas passer par la porte, qu'il faut obligatoirement venir d'ailleurs, mais Roland, il vient bien de ce monde-là, donc pourquoi Roland, il pourrait passer la porte et pourquoi pas Hoth?
Mais parce que c'est comme idée fixe, il est petit, Hoth, il va se faire mal, il peut pas partir à l'aventure.
Alors, je pense qu'il y a ça, il y a peut-être aussi le fait que pour passer la porte, il faut être humain, tout simplement. Pas juste membre du Quatet, mais qu'il vaut mieux être humain pour le faire.
Ah, c'est beau, le spécisme. Hein. Bravo, monsieur King. Bravo.
L'ouverture de la porte n'est pas si simple. Il faut la force magico-mentale de tout le monde, et Jake a l'impression de se faire déchirer en deux au moment où elle s'ouvre enfin. À ce moment-là, Hoth hurle, et Jake et Callahan volent. J'ai pas compris ce passage. Rendu comme je l'ai compris.
En fait, il y a la porte qui attire Jake. Je pense que c'est le fait qu'il soit déjà mort avant. Enfin, en gros, qu'il soit lui-même très, très puissant dans le Shining qui fait qu'il est attiré par la porte. Et Callahan, lui, il se précipite pour justement l'attraper avant qu'il s'éclate la gueule contre la porte, qui s'ouvre un tout petit peu.
Ah, je pensais qu'ils étaient embarqués les deux, quoi.
Non, Callahan, il essaye de rattraper Jake, de le retenir, de le sauver.
Ok. La porte s'ouvre sur New York, mais une force que Eddie pense être la tour le repousse lorsqu'il veut passer, puisque à la base, c'est lui et Roland qui doivent aller à New York. Et en fait, la porte aspire Jake, Callahan et Hoth, parce que c'est ce que je disais, Hoth, c'est idée fixe. Il fait toujours partie de l'aventure.
La métaphore.
Même s'il est petit et que gna gna gna, faut pas que l'amener tout ça.
Mais de souvenir, il devait pas venir. Mais oui. Comme il a eu très peur, il a sauté avec Jake.
Ah ouais.
Il s'est accroché aussi comme il a pu.
Oh putain, voilà. J'ai pas compris du tout ça comme ça ce passage. Pour moi, là, il a été embarqué sans qu'on leur demande leur avis, quoi.
Ouais, parce qu'il était derrière le manie qui devait prendre soin de lui et avec les adieux tout ça et il a sauté. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas.
Ah, il y a Alistair qui s'est barré.
La porte se referme, puis s'ouvre à nouveau et aspire Eddie. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'Eddie se retrouve dans un endroit qui sent le pain, P-I-N, au milieu d'une fusillade.
Now recording. Troisième couplet. Trudy et Mia. Trudy.
Laissez-moi vous présenter Trudy. On a là une nana qui a plutôt les pieds sur terre, pas du genre à croire aux petits hommes verts. Elle est expert comptable et elle a l'air d'être un requin dans son domaine. Mais tout change le 1er juin 99. Alors attention, ça n'a aucun intérêt quasiment pour le reste de l'histoire, ce que je vais vous raconter. Mais comme je l'ai lu, il n'y a pas de raison que vous ne le sachiez pas.
C'est vrai.
C'est le jour où, alors qu'elle passait devant un nouveau gratte-ciel, que les gens du coin appellent la Tour Noire, pour se rendre à son taf, qu'elle tombe nez à nez avec une Susanna aux multiples expressions de visage et voix. Donc elle a en face d'elle une nana qui apparaît et qui a l'air de changer de personnalité au fur et à mesure qu'elle lui parle. Et surtout, sur une personne noire de peau, sans membres au-dessous des genoux, qui a tout d'un coup des mollets et des pieds blancs qui apparaissent.
Alors ça, c'était vraiment chelou.
Après un échange avec deux personnes dans un seul corps, genre Mia puis Deta, en quelques secondes, c'est Susanna qui prend le dessus, le temps de demander de l'aide, mais finalement, ça a l'air d'être le petit gars le plus fort dans l'affaire. À ce moment-là, je sais plus trop comment l'appeler, Susodmiga, peut-être.
Un bref, truc comme ça, ouais.
Bref, elle prend le sac de Trudy qui contient des chaussures, la menace et se barre. Trudy repart pour son bureau en se pissant dessus. À partir de là, donc comme je vous disais, je vous raconte l'histoire de Trudy parce que c'est dans le chapitre. Hein, mais si vous voulez aller faire autre chose le temps que je parle de ça, vous pouvez. Donc Trudy, elle appelle les flics. Celui qui prend sa déposition ne la prend pas vraiment au sérieux. Elle a mal vu ou elle a pris des substances psychotropes au petit déjeuner. Trudy le fout dehors et commence ainsi la vie d'incomprise de Trudy. Voilà, c'était la vie de Trudy.
Après le boulot, brève mais marquante.
Après le boulot, elle retourne quand même sur les lieux de l'apparition. Elle se souvient que la femme lui a dit qu'elle s'appelait Susanna Dean et qu'elle avait l'air pas enceinte, mais en train d'accoucher quand même. Donc ça a dû être quand même, pour Trudy, un moment un peu spécial le matin avant son premier café. Elle se rend alors compte qu'elle se sent plus calme. Elle a l'impression qu'il y a un chant apaisant qui vient de la tour. Un homme l'interpelle alors pour lui dire qu'il l'entend aussi et qu'il vient là depuis qu'il est ado pour l'écouter, que ça a même soigné son acné. Il dit qu'avant, il y avait un terrain vague ici et qu'il pensait que le chant partirait avec la construction de cet immeuble, mais non, il est toujours là. L'immeuble s'appelle Amarskjöld, donc Trudy le dit plein de fois, c'est pour ça que je l'ai noté. Chelou. Et en gros, ça veut dire le bouclier du marteau en suédois, d'après Google Translate. Hein, je veux pas. Voilà. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est une trad à chier? Moi, je vous laisse le décider, nous envoyer un message pour nous dire ce que vous en pensez. Si alors, vous parlez suédois, voilà.
Le seul truc qui a un intérêt, c'est que l'immeuble, il est construit à l'emplacement de la rose.
Oui, et que la rose est toujours là.
Et que la rose est toujours là et chante.
Et je me souviens que je t'ai envoyé un message pour te dire l'ado qui est plus boutonneux, on est censé savoir qui c'est. Que tu m'as répondu, oh, on peut deviner que c'est Eddie quand même. Que je t'ai dit, mais t'es sûr? Et que tu m'as dit, non, mais en fait, pas du tout, j'ai le aucun souvenir. Salaud. Bref, Trudy finit par s'asseoir sur un banc à côté d'une fontaine représentant une tortue qu'elle ne trouve pas ronde et sur laquelle est écrit « Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde ». À côté, il y a une poubelle qui contient un des objets qui était dans son sac. Trudy suppose que Susanna est venue là mettre ses chaussures, puis qu'elle a planqué ses assiettes tranchantes dans le sac de Trudy, parce que Susanna débarque quand même avec sa tenue de la cala et ses assiettes tranchantes à la main.
Et c'est super.
Et qu'ensuite, elle est allée se réfugier dans l'hôtel qui est en face. Mais elle ne vérifie pas ses dernières suppositions, et en rentrant chez elle, elle a l'impression que quelque chose penche et que c'est bientôt irréversible. Et elle va passer l'été à rêver de ça, de Carillon, de Susanna et de tout le reste.
Donc elle est non seulement pas... elle débarque en tenue, mais en plus, juste après une grosse bataille, donc peut-être du sang, beaucoup de saleté, machin. Donc elle est vraiment pas.
Oui, elle a du sang.
Elle n'est pas passée inaperçue.
Ouais. Oui. Bah, elle avait rampé jusqu'à la porte aussi. Enfin, elle devait être dans un sacré état. Et là, on voit que Trudy, elle a été marquée par la tour sombre. Et en tout cas, le bruit de Carillon et tout le reste, ça lui fait penser qu'elle est. On dirait qu'elle est presque partie vadache au final avec tout ça.
Ouais.
Pour la manière dont elle est habillée, à un moment donné, elle se pose la question, Susanna, de dire mais t'as vu. Enfin, je vais pas passer inaperçu. Et il y a une réflexion de mais on est à New York.
Bah oui, il y a des clodos. Il y a voilà. Je pense pas que ce soit un gros problème.
Voilà.
Easy. Quatrième couplet. Le Dogan de Susanna.
Focus sur Susanna. King nous fait un petit rappel des événements du tome précédent. Il y a eu le combat contre les loups, puis les contractions. Mia a repris le dessus, l'a amené jusqu'à la caverne de la porte, lui a demandé de laisser là l'anneau qu'Eddie lui a offert parce qu'il y a son odeur dessus et qu'ils vont la suivre. Alors, qui est-il ? C'est pas Eddie et Roland et le cathète, mais à ce moment-là, on sait pas trop qui c'est.
Si, pour moi, le heal, c'est ça, c'est le cathète qui va pouvoir la retrouver grâce à ses indices quelque part qu'elle va laisser.
Ah ouais, c'est vrai. Ah, pour moi, c'était une entité non définie, mais qui allait genre le Sauron, tu vois, qui renifle l'anneau.
Pour moi, c'était pas clair encore. Ah, on le saura après, mais.
Ouais, on le saura. Alors, c'était peut-être pas très clair. Après, je l'ai peut-être interprété avec les souvenirs que j'ai du coup, mais pour moi, c'est généralement quand t'enlèves un objet qui te tient cher comme ça, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison derrière.
Oui, ben là, la bonne raison, c'était de pas être retrouvé par il.
Oui.
Bon. Voilà Susanna and Friends à New York. Elle agresse Trudy, vont se poser sur un banc. Susanna demande à Mia, qui a repris le contrôle, de fermer les yeux pour lui permettre de se concentrer et de pas accoucher sur ce banc. Donc en fait, il y a une enveloppe corporelle et dans le cerveau, ça discute, quoi. C'est une salle de réception.
C'est le film de Pixar, là.
C'est un sac de paroles avec
les émotions.
Je l'ai pas vu vice versa.
Il y a la même salle de contrôle.
Moi, ça m'a fait penser à. Putain, j'ai oublié le film de science-fiction, enfin, un livre de.
Le Megazord dans Power Rangers.
Non. Qui a été écrit par la même nana qui a écrit Twilight.
Ah, les âmes vagabondes.
Hein? Ouais, voilà, les âmes vagabondes, c'est un peu le même principe, ils se parlent dans la tête.
Qu'est-ce que c'était chiant ce bouquin?
Moi, j'avais la rêve Pixar. Hein.
C'était trop bien. Ouais.
Les âmes vagabondes, 400 pages de moins, ça aurait été très bien.
D'ailleurs, on ne nous a jamais expliqué comment ça se crée vraiment ce cockpit du Megazord.
Ouais.
C'est pas une adaptation d'un jeu vidéo? Vous allez pas nous en parler dans G7 un jour?
Des Power Rangers? Ah, oh, il pourrait, je crois qu'il pourrait. Hein.
Il y a eu un jeu vidéo, mais c'est une série à la base. Enfin, c'est un patchwork d'une série qui a été remontée pour en faire une autre série.
Il n'y a pas eu de jeu vidéo?
Si, mais c'est pas un jeu vidéo de base.
C'est bon.
Non. C'est dans l'autre sens. Ça marche dans l'autre sens, G7.
Bon, donc, Susanna, donc elle se concentre pour pas coucher sur ce banc. Elle dit qu'elle revient bientôt, mais que pour l'instant, elle va dans son dogan intérieur. Et oui, maintenant, donc, Susanna a les pieds blancs et les yeux bleus. Et bien. Alors, est-ce que quelqu'un sait nous dire ce que c'est un dogan? Parce qu'on l'a vu dans le bouquin précédent, mais je sais que certains oublient.
Moi, je m'en souvenais plus. Et j'ai vite été voir. Donc, en fait, c'est quand Calvin Tower avait ses bouquins et qu'il expliquait de long en large pourquoi ce bouquin coûtait cher, parce que ça avait été écrit par Benny, le pote de Jake. Et qu'il y avait une histoire de nom qui n'était pas très claire et que tout ça, ça faisait sa valeur. Donc ce livre est aussi arrivé par la porte. Peut-être que c'est important, je sais pas.
Alors, c'est écrit par quelqu'un qui a le même nom que le pote de Jake. On ne sait pas si c'est la même personne ou pas.
C'est les rapprochements entre les univers, entre les deux mondes, les deux univers.
Ouais. Et après, ce qui est important, c'est que Dogan, dans le New York... où Calvin se trouve, ça veut rien dire. Par contre, c'est sûrement repris de Hogan, qui signifie la maison chez les Indiens. Donc on peut supposer que quand elle va dans son dogan intérieur, c'est sa maison intérieure, enfin son endroit de, comment on dit, de sécurité.
Alors ça, c'est plutôt, ça c'est l'interprétation du côté, on va dire, notre monde, et du côté du monde d'où vient Ronan, d'où vient Roland. Le dogan, ils nous disent qu'il y en a plusieurs, c'est des espaces dans lesquels la technologie fonctionne toujours, et c'est de la technologie qui est au service du roi cramoisi, donc c'est là où il y a plein de caméras de sécurité qui permettent de surveiller notamment la Cala.
Ben c'est là où Jake est allé et qu'il a découvert, je sais même plus quoi, dans le tome précédent. Allez nous réécouter.
j'ai l'explication dans Concordance. Qui fait 6 pages.
Ah,
ok. Mais après, parce qu'il y a tous les différents dogan et toutes les. Comment c'est référencé. Enfin, moi, le souvenir que j'en avais, c'est. En effet, c'est presque une salle de contrôle de North Central Positronic. Oui. Où là, en effet, Jake, il comprend ce qui est en train de se jouer à la Cala. Et je peux lire au moins l'intro qui fait 2 paragraphes, si vous voulez.
Vas-y.
Sachant que c'est Concordance le dernier qui résume les 3 derniers volumes, donc si je coupe ma lecture, c'est parce que je vois que ça va spoiler la suite, mais je pense qu'à ce stade de la lecture, on est ok. Lorsqu'on lit pour la première fois le terme dogan, il s'agit d'une coquille sur le rabat de la couverture d'un des livres rares de Calvin Tower. Donc ça, c'est ce que disait Urne. Bien que dans notre monde, le mot dogan ne signifie rien de plus qu'une faute de frappe, dans le monde ultime, il a un sens particulier et plutôt sinistre. Les dogans du monde ultime sont une série de centres de contrôle à l'allure militaire et ont la forme de baraques préfabriquées en tôle. Comme le savent tous les fidèles lecteurs chez Stephen King, les baraques en préfabriquées sont toujours des lieux maléfiques. Dans ces dogans, la technologie fonctionne toujours. Je sais pas à quoi ils font référence, il y a un numéro 18.
Nous, on a pas croisé encore des trucs en préfabriqué.
Si, typiquement, ils disent que la super grippe, elle est élaborée dans le fléau dans des baraquements en préfabriqués. Tu vois, un exemple qui donne qu'on peut dire parce qu'on l'a déjà fait. Ouais.
Ça me dit quelque chose, effectivement.
Donc la technologie, elle y fonctionne toujours. Certains sont utilisés comme postes de surveillance par les serviteurs. Dans d'autres, la magie et la technologie peuvent se mêler, machin. Ouais, c'est ça. Ça a été construit par les grands anciens de North Central Positronics. En gros, c'est ce qu'on disait. Et après, ils décrivent tous les dogans qu'on connaît, qui sont cités, les antennes fédérales, machin.
Ouais, on en a pas besoin, je pense, dans ce détail-là.
Non. Ah oui, Dogan mental de Jake, Dogan mental machin, Dogan mental de Susanna. Ils en parlent aussi.
Eh ben, on va en parler nous aussi. Très bonne transition, Madame Émilie.
Mais de rien, Madame Pomme.
Susanna se concentre donc pour visualiser son intérieur comme un centre de commande. Elle voit un cadran qui indique son état émotionnel, un autre qui indique la force de travail et un switch pour endormir le petit gars. Un peu comme un Tamagotchi, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Sur un écran, elle voit le petit gars et il a les yeux bleus de Roland. Ça la perturbe un chouïa. Vu que c'est elle qui imagine ça, pourquoi est-ce qu'elle a donné à son bébé les yeux de son chef et pas les yeux de son mari? Effectivement, il y a peut-être de quoi en discuter avec un psy. Elle tourne le bouton de...
Il y a beaucoup de choses à dire, là. À ce stade, il y a une longue thérapie.
Ça, je pense qu'elle peut faire la fortune, tous, là, ils peuvent faire la fortune d'un cabinet de psy. Donc, elle tourne le bouton de émotion pour se calmer et donc calmer Mia. Elle switch le petit gars sur endormi et va pour baisser la force du travail en cours, donc là, du travail d'accouchement. Une série d'alertes se met en marche. Susanna ressent de très fortes douleurs dans la tête. Une voix lui dit que ce n'est pas bien d'essayer de rouler Mère Nature, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle baisse le curseur, pas au max, mais presque. La douleur est du coup beaucoup moins forte et beaucoup plus supportable. Donc la douleur finit par se calmer, mais pas l'impression que tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. Elle se rappelle que depuis qu'ils sont dans l'entre-deux-mondes, Jake a développé le Shining, Eddie peut créer des talismans, et elle peut avoir des visions assez fortes pour qu'elles deviennent réelles. Avant de partir de cette salle de commande, il lui semble qu'il lui reste une dernière chose à faire. Susanna imagine alors un micro, et elle s'adresse à Eddie pour lui dire qu'elle est à New York le 1er juin 1999, donc 1999, et qu'elle va aider Mia à accoucher et se débarrasser du petit gars.
Est-ce que le message sera reçu ?
Susanna profite d'avoir un peu pris des forces dans son dogan intérieur pour forcer Mia à rester assise et à palabrer avec elle. Quel est le plan, là ? Mia doit trouver un téléphone, des gens doivent l'appeler, sauf que visiblement, elle n'a pas l'air de savoir ce que c'est et les contractions vont reprendre dans quelques heures. Et là, il ne sera plus du tout possible de les arrêter.
On sent bien que Mia, à ce moment-là, elle est quand même perdue. Elle obéit à des, on va dire, à des êtres, des entités mystérieuses, inconnues, oui, qui lui ont sûrement fait plein de promesses.
Susanna pense à un hôtel pas loin de là. Elle a l'air aussi de prendre conscience que la 13e noire est en leur possession, ce qui veut dire qu'Eddie ne pourra pas ouvrir la porte. Elle est un peu colère. Mia essaye de se justifier, c'était pour son petit gars, blablabli blablabla. Mais là, alors c'est Detta qui refait surface et puis qui met les points sur les i. Mia est une gourdasse qui se la joue patronne. Detta veut tout savoir de ce qu'elle a en tête et elle ne lui permettra pas de bouger de ce banc tant que ça ne sera pas le cas. Même si elle doit accoucher là, Detta, elle en a rien à carrer du petit gars.
Ouais. On reconnaît bien la personnalité qu'il nous avait présentée avant. Hein.
Oui.
La force de caractère.
On retrouve aussi cette façon d'écrire pas très agréable.
Elle. Ouais, cette espèce de patois un peu chelou.
Moi, j'avais un peu peur pour la version audible de... Parce que du coup, elle parle avec un accent new-yorkais, je sais plus de quel quartier, du Bronx, non ?
Mais t'avais peur de l'accent Michel Leb.
Moi, c'est... Ouais, ça,
j'avais tellement peur d'avoir une Michel Leb, mais putain. Et en fait, il s'est contenté. Donc, dans le bouquin, c'est écrit les R sont supprimés, et puis il y a quelques des mots un peu mm-hmm. mâchés. Et il s'est contenté de lire comme c'est écrit, et ça passe très bien. Il en a pas rajouté en essayant de faire des accents pas possibles. Voilà.
Cinquième couplet, la tortue.
Mia propose que toutes les femmes de ce corps se réunissent dans le château qu'il y a dans leur tête pour palabrer face à face. Ça semble certes une bonne idée pour tout le monde, mais Susanna se retrouve dans la grotte de la porte, ou son esprit en tout cas se retrouve là-bas. Elle voit une scène qui s'est passée entre Callahan et Eddie dans le tome précédent. Alors, Susanna ne dit pas que c'est écrit, que c'était dans le tome précédent. Hein, c'est... Elle apprend qu'il y a une doublure dans le sac de bowling qui contient la boule noire. Et il y a quelque chose dans cette doublure. Oui, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais trimballe la boule dans le sac de bowling de Jake, qui se trimballe depuis déjà un moment et qu'on ne sait pas pourquoi.
C'est ça, l'entre-deux-quilles.
Et donc, il y a une petite doublure. Susanna ne sait pas d'où lui est venue cette vision, mais la voilà de retour à New York. Mia, qui a aussi assisté à la scène, du coup, cherche dans le sac, trouve la doublure, et dedans, il y a une petite amulette en forme de tortue bien ciselée. Et là, pour le coup, j'aurais bien aimé la voir, cette petite amulette, cette petite tortue. Ça lui rappelle bien sûr la petite poésie sur la tortue et les rayons, tout ça, tout ça. Mais surtout, la tortue de la fontaine juste à côté d'elle est strictement identique à celle qu'elle tient dans sa main, jusque dans les moindres détails, jusque dans les petits défauts. Elle est en train de penser à l'immensité des choses et du cas quand un homme d'affaires scandinave débarque et j'ai pas bien compris ce passage, j'ai l'impression qu'il discute par la pensée, mais je suis pas très sûre.
Oui, tu sens qu'elle opère un peu une influence sur lui.
En fait, voilà. On s'aperçoit à ce moment-là que l'amulette de la tortue, elle a un peu un pouvoir de contrôle qui ressemble à celui de la clé que Jack avait quand il rejoint le Catette.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elle lui permet de charmer les gens et ils vont avoir envie de la toucher, de la prendre, mais en même temps de t'obéir.
Ouais, c'est plus que charmer, là.
Jack avait eu ça, ouais. Il y avait eu un moment de panique à Central Park, même, justement, je crois, la première fois où il est retourné à New York par une porte. Quand ils sont allés dans le... Là où il y a la rose, dans le terrain vague. Mmh. Ils étaient vadaches, ils n'étaient pas par la porte.
Ouais.
Je sais plus.
Et donc bref, Susanna et toutes les femmes de sa vie trouvent que c'est une belle journée. Et en fait, c'est un passage qui sert qu'à rappeler ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents. Puisqu'on parle de Jake, on parle de Charlie le chouchou, on parle du Catette, on parle de 19. Je trouve que ça permet de refaire un point un peu sur les infos importantes des différents tomes précédents. Et donc en fait, le diplomate, il est hypnotisé par la tortue. Susanna peut lui faire faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle lui demande de réserver une chambre dans son hôtel au nom de Susanna Miadine. Elle prend tout son liquide, puis elle lui dit de partir, de l'oublier et de ne plus penser à ce qui le tracasse, parce qu'il a des problèmes de digestion apparemment. Puis sa femme le
fait. Un ulcère.
Ouais.
Elle lui dit que son transit ira très très bien pour le restant de sa vie.
C'est une sorte d'hypnose.
Et ça vous sauve un homme.
Une femme aussi, hein, tu sais.
Oui, parce que le syndrome du côlon irritable touche plus les femmes que les hommes.
Ah.
Et oui.
Est-ce que ça serait
c'était
pas
le saviez-vous
hein? Peut-être.
Peut-être. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il part en pleurant, tu sais, genre comme un gamin, ça m'a fait mal au cœur, en fait.
Mm. Ben, tous après, on verra que...
Oui. Aussi par John, non,
ouais.
Mais tu m'as hypnotisé, je peux rien faire, je m'en vais quand même. Mais
ils ont été privés de quelque chose qui avait l'air merveilleux, qu'ils voulaient absolument avoir et qu'ils l'auraient refusé.
Mais oui, c'est horrible.
Entre deux ados qui passaient par là s'arrêtent aussi à cause de la tortue, mais Susanna les envoie paître. Mia n'a qu'une chose en tête, y aura-t-il un téléphone dans la chambre de l'hôtel? Alors Susanna Mia, comme l'appelle l'auteur à ce moment-là, se rend donc à l'hôtel en découvrant que dans le New York de 1999, les personnes noires ont plus de place que dans celui de 1964. Puisque Susanna, elle vient de 1964. Elle, quand elle a été prélevée dans son monde, elle était en plein combat pour les droits civiques. Donc c'était un peu une autre ambiance. Quand elle arrive à l'hôtel, elle voit que la réceptionniste est métisse. Pour elle, c'est fabuleux. Je crois qu'à ce moment-là, elle se dit que ben, même si la tour peut s'effondrer et tout détruire, ben, ça, c'est la preuve que les choses avancent et se détruisent pas, en fait. Elle a un espoir en voyant ça. La chambre est bien réservée, mais il faut que Susanna Mia montre sa carte d'identité, qu'elle n'a pas, évidemment. Elle présente alors ses plats tranchants et la petite tortue en bois qui hypnotise la réceptionniste et récupère les clés de sa chambre, la 1919. La réceptionniste évoque Discordia, puis dit que lorsque le roi viendra et que la tour s'effondrera, toutes les jolies choses seront brisées, puis que viendront les ténèbres et les mugissements de Discordia et les cris des Cantois.
Cantois.
Alors, pour moi, tout ça, c'est cryptique à ce moment-là.
Alors, enfin, je pense que c'est cryptique globalement pour tout le monde, et ce qui est étrange, c'est que c'est des personnes lambda qui, une fois hypnotisées, commencent à parler un peu avec... En plus, on le voit dans la façon dont ils le disent, ils parlent avec le patois de l'entre-deux mondes. Et ah oui. On dirait qu'ils ont accès à des prémonitions, alors que, bon, c'est juste, c'est n'importe qui.
Oui.
Oui, c'est ça. Des prophéties faites par les lambda.
Après, ils sont en état d'hypnose, donc tout peut arriver.
Mais c'est sur des trucs comme ça, en fait, où je me suis dit que cette histoire de... Quand on disait que la bague, elle a dû laisser la bague pour pas qu'il la retrouve... pour moi, c'était des trucs comme ça. Genre, il envoie des infos comme ça à travers les gens qu'elle croise, tu vois. Enfin, bon.
Ouais.
Susanna Mia monte vite dans sa chambre parce que ben, ça va pas du tout. Ses jambes sont en train de disparaître. Et j'ai l'impression que c'est quand c'est Susanna qui prend le contrôle un peu trop longtemps.
Oui, je pense que c'est ça, c'est que les nouvelles jambes, même les yeux qui commencent à changer de couleur, ça montre une espèce de fusion avec Mia, et quand c'est Susanna qui reprend le dessus, elle retrouve son corps, progressivement aussi, son corps d'origine.
Une fois dans la chambre, Mia reprend le dessus et les jambes reviennent. Dans la chambre, il y a un coffre-fort. Mia y range la boîte de la 13e noire et les plats d'Orisa. Mia n'attend qu'une chose, c'est que le téléphone sonne. Pour Susanna, il est temps de palabrer, Mia lui avait promis d'ailleurs. Mais elle décide de se retrouver dans un lieu enfoui dans la mémoire de Susanna. Elle se laisse tomber sur le lit et part va à Dash. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris.
Oui. Je me demandais si King il a fait des recherches sur les troubles de la personnalité multiple. Parce que, alors c'est marrant, ça tombe bien, hier j'ai commencé à regarder un docu sur Netflix sur un tueur, comme dans Split, qui avait...
Sur Billy Milligan, là.
Oui, exactement. Et où dans la première partie, ils expliquent bien un peu le début de la psychanalyse sur ces cas-là, et où ils retracent bien que c'est les personnes qui sont atteintes de ce trouble, en fonction de quel est le personnage ou la personne qu'ils ont en eux qui prend le dessus, ils changent de voix, ils changent d'attitude, ils changent de comment ils se tiennent, de comment ils marchent et tout, et où ça se voit physiquement sur eux, en fait, que c'est plus la même personne à l'intérieur qu'elle contrôle. Et je trouve que King, il retranscrit ça de façon très littérale, parce qu'elle repère ses jambes, mais c'est très très proche des études qui ont été faites sur le sujet.
Bah peut-être, du coup, qu'il s'est renseigné...
C'est possible.
Intéressant.
Je pense que oui, il en a peut-être sûrement rencontré, vu son parcours un peu chaotique.
Avant qu'on passe au couplet suivant, il y avait aussi un autre petit détail que j'avais remarqué, c'est que Mia, elle a envie de voir son petit gars. Elle a pas l'air de savoir que le Dogan de Susanna existe, et elle a pas l'air d'avoir le pouvoir que Susanna elle a sur son corps.
Oui, elle est locataire là, Mia.
Oui,
ouais, Mia.
Et puis elle est obsédée par le fait de sauver son petit gars, quoi.
Ça, y a que ça qui compte en fait.
Ouais, elle est un peu aveuglée.
Sixième couplet, l'allure du château.
Alors le souvenir dans lequel elle se retrouve, c'est une soirée de bal pour ses 16 ans, et elle avait rencard avec un Gus. C'est là qu'elle rencontre enfin Mia.
Qu'est-ce que c'est ?
Et Mia, elle est blanche. Susanna ne s'y attendait pas du tout, et je crois qu'elle a une pensée pour Deta à ce moment-là, qui déteste les blancs.
Ouais.
Et donc d'avoir une personnalité en elle qui est blanche. Elle n'a plus ses jambes, puisque c'était les jambes de Mia et que maintenant Mia est là. Et donc elle est assise sur une charrette. Au loin, elle voit ce qu'elle appelle la forge du roi. Mia lui dit qu'elles sont du côté Discordia du château et que le roi peut l'atteindre de là où il est. S'il décide qu'elle doit se jeter du haut de la falaise, elle le fera. D'ailleurs, elle sent le glam l'attirer, mais elle arrive à s'en détacher. Elle est assise sur une sorte donc de petite charrette, comme je disais, et puis elle s'en sert pour rejoindre Mia, qui lui explique que le château qu'elle voit s'appelle le château de l'Abyss, mais qu'avant ça, c'était le château de Discordia. Elles sont dans le monde ultime, et a priori, la tour ne devrait pas être loin, si j'ai bien compris. Mia rappelle à Susanna que si elle a des questions, c'est maintenant, quand le téléphone de l'hôtel les réveillera, il sera trop tard. Alors question, où est l'Abyss ? Réponse. J'ai pas compris la réponse. Mais au-delà des murs, il y a un village dont tous les habitants sont morts à cause de la mort rouge. Susanna se rappelle que c'est comme dans une histoire d'Edgar Allan Poe. Après le village, il y a le mur extérieur du château, et après ce mur, il y a un immense fossé avec des voies comme dans la caverne de la porte. Enfin, c'est ce que j'en ai compris.
Oui, ça y ressemble très fort.
Avant, il y avait un pont au-dessus de ce fossé, mais il s'est écroulé bien avant le grand décompte. Voilà.
Ça peut te rassurer, j'ai pas bien compris la topologie, donc.
J'avoue que là, ça m'aura arrangé de pas avoir à prendre des notes, par exemple.
Ouais.
Je pense que c'est un peu fait exprès dans le sens où on est dans un. C'est un monde qui n'existe plus de toute façon.
C'est ce que je me suis dit aussi, mais c'était pas clair non plus.
Question. Quel est le démon qui est le père du petit gars ? Alors là, révélation. Ça, je l'ai écouté, je l'ai pas lu.
Surprise !
J'étais en train de courir à ce moment-là. Le père de l'enfant n'est autre que Roland de Gilead himself.
Donc les yeux, elle ne les avait pas imaginés en fait, c'était vraiment les yeux de l'enfant.
Absolument.
Ouais, puis attends, elle lui faisait du gringue depuis le tome 2.
Et puis alors Mia, elle appellera son petit gars Mordred, comme Susanna a en tête, et comme le Mordred de la légende, le petit gars tuera son père un jour. Donc Mordred, en fait, c'est le fils d'Arthur Pendragon et de sa sœur. De sa demi-sœur, dans la légende. Et c'est lui qui tue Arthur Pendragon dans la légende.
Est-ce qu'il y a le même genre de rapport qui va avoir lieu avec ce Mordred-là ?
En tout cas, c'est la prophétie dit ça. Et oui, Susanna, bon, elle est un peu sous le choc de cette révélation. Et moi, à ce moment-là, j'avoue, je me suis dit, j'ai pas envie de savoir. J'avais peur d'être déçue sur l'explication. D'ailleurs, j'ai fini de courir à ce moment-là. J'ai éteint Audible, j'ai enlevé mes écouteurs et j'ai mis 2 semaines à reprendre le bouquin.
Oui, tu m'en as parlé. Oh non, mais c'est nul comme révélation, putain, mais c'est...
J'avoue, franchement, vraiment, je l'ai entendu. Je me suis instantanément arrêté de courir. Mais vraiment, je me suis dit, quoi ? Et pas d'autre explication en plus à ce moment-là.
C'est ça, c'est
aura, que... on aura, ça sera développé, mais à ce moment-là, on n'a pas d'explication.
Pour tout le monde, c'est pareil. C'est...
Pourtant, on a toutes les clés.
Oui, je trouve.
Il y avait des indices pas très subtils, mais même comme ça, tu te dis, bah non, il va pas faire ça.
À ce moment-là, toi, t'avais compris, Emmerich, tu t'étais douté de l'explication ?
Je me doutais qu'il y avait un micmac. J'ai pas imaginé l'explication exacte, mais je me doutais qu'il y avait un micmac dans le style de ce qu'on va découvrir.
Tu peux remonter certains indices. Hein, tu vois, il y a pas si longtemps qu'elle nous a dit que le bébé, il avait les yeux bleus de Roland.
Voilà, ça c'est assez obvious.
Non, mais
enfin,
ça,
moi, c'est là que je me suis dit bon.
Oui.
Ouais.
Mais
tu sais,
oui,
quand elle le voit, ouais.
Et moi, je l'ai dit aussi d'ailleurs il y a 5 minutes à peu près.
Non, toi oui, mais je me rappelais pas qu'elle l'avait dit.
Si. Mais comme à ce moment-là, elle dit que c'est ce qu'elle a imaginé. Puis moi, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, c'est le genre de choses. Je vois pas les choses arriver. Je me laisse porter. Non, mais c'est surtout sur le pourquoi Roland est le père. Là, à ce moment-là, j'avais peur. C'est pour ça que je voulais pas aller plus loin. J'avais peur de découvrir qu'en fait, Roland s'était tapé une des personnalités de Susanna. Tu vois, dans un truc, je me suis dit, mais on va où ? Qu'est-ce que ça ? Vraiment, j'avais peur que ce soit ça, la révélation.
Donc là, ça te va.
Hein ?
Là, ça te va comme explication.
Ah, je préfère en tout cas.
Ok.
Oui.
Ah ouais.
Carrément. Ça aurait été vraiment bizarre comme plan A3 chelou. Non, vraiment, ça aurait été bizarre comme histoire, sinon.
Puis j'aime bien ce qu'il y a un côté aussi. Du coup, forcément, les éléments qui soient physiques ou pas, c'est-à-dire les démons ou les autres éléments psychiques, se mettent contre lui pour l'empêcher d'avancer dans sa quête et mettre des bâtons dans les roues et tout. Ça sert un peu ce truc-là de lui contre le reste du monde, le seul à aller à la tour sombre pour essayer de la sauver, le seul qui voit que les rayons tombent et tout le monde veut essayer de l'en empêcher, machin, même les démons, quoi. Et c'est intéressant.
C'est plus tard qu'on apprend le pourquoi du comment. Donc Susanna veut savoir comment c'est possible puisqu'ils n'ont jamais fait de sexe, Roland et elle. Mia raconte. Les 6 rayons furent créés par la magie dans la grande Discordia, plus exactement dans l'Andela, appelé aussi Prime. Je vous laisse prendre des notes, mais je répéterai pas. Ensuite, il n'y a plus de magie, mais il restait la tour pour les faire tenir. Et après, il y a eu l'ère des machines avec Norse Central Positronique, que l'on voit en fil rouge depuis le début. Et ce, dans tous les mondes. Leur centrale positronique, on les a croisés dans tous les mondes qu'on a vus. Et donc, les machines maintiennent les rayons, mais en ce moment, elles déconnent. Petit clin d'œil à 2021, hein, puisque Mia rappelle que dans certains mondes, des grands fléaux ont fait beaucoup de morts. En gros, c'est tout un passage sur la spiritualité versus le rationalisme. Puisque Mia, son propos, c'est de dire, regardez, on peut pas faire confiance aux machines, vaut mieux se référer à la magie et aux croyances. Maintenant, la tour va tomber et le roi cramoisi va avoir son propre royaume. Quelqu'un le lui a promis. Alors c'est peut-être lui-même qui l'a fait, d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça, je me souviens pas trop. C'est lui qui se serait promis à lui-même.
J'ai le passage en plus souligné, c'est que Mia, elle sait même pas, t'as justement Susanna qui demande mais qui lui a promis ça, et Mia qui dit je sais pas, peut-être qu'il se l'est promis à lui-même. En gros, le roi cramoisi, il a des attentes très fortes après la chute de la tour et de la destruction des mondes de récupérer l'intégralité du bordel pour lui, quoi.
Ah oui, et c'était surtout que si quelqu'un lui a promis, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, et pour Mia, il y a personne au-dessus de lui, donc qu'il a dû se le promettre lui-même. Je pense que c'était ça que j'ai voulu écrire.
Ouais, Mia, elle voit pas plus loin que ce qui est en dessus, en fait.
Mia prophétise que rien ne pourra empêcher la tour de tomber, à part la magie.
Mia, c'est un peu Nadine, hein ?
Il y a des similitudes, oui.
Je suis assez d'accord.
Oui, c'est vrai. Tu as raison.
Après, elle a été créée pour ça, donc voilà.
Nadine, dans le fléau, rappelons-le aux personnes qui n'auraient pas la ref.
Oui, c'est vrai.
Vous n'avez pas la ref, vous arrêtez d'écouter ce podcast tout de suite.
Vous allez écouter le pas de fléau. Non.
Voilà, vous arrêtez d'écouter cet épisode, pas ce podcast.
Ah oui, ce serait dommage.
Alors du coup, pour l'explication, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tome 1, il me semble que c'est dans le tome 1, Roland se tape une succube pour connaître sa prophétie.
Pour avoir un oracle.
Ouais, et ben cette succube était en fait un démon hermaphrodite. Donc le démon a pris la semence, comme dit Mia de Roland, puis s'est changé en mâle et a inséminé Susanna avec tout ça. Et ben croyez-le ou non, je préfère cette explication que celle que j'avais en tête.
Ah ben moi je trouve ça nul à chier.
Inséminé au moment où, où Jack passe la porte. C'est oui, le moment c'est où Susanna... on se fait violer quand même, on peut le dire, par un démon, pour occuper le démon pendant que Jack passe la porte avec Eddie.
Oui. En gros. Mais ça, on le sait que ça vient de ce démon depuis qu'on sait qu'elle est enceinte. Enfin, on se doute en tout cas que ça vient de ce démon-là.
Hein? Je suis pas sûre que je m'en doutais.
Ça a été dit plusieurs fois, en tout cas, Roland l'a supposé, il en a parlé avec Eddie.
Ah oui, exact.
Ils l'ont dit exactement.
Exact.
Enfin, pour le coup, il n'y avait pas de suspense.
Moi, dans un univers où tout est lié ensemble, c'est pas une explication qui m'a choqué, hein, que ce soit, alors, le démon hermaphrodite, là, tu te dis, ouais, pourquoi pas, allez, celle-là, je l'accepte. Mais le côté que ce soit le même qui fait l'oracle et le gardien des clés après, quelque part, ça me dérangeait pas plus que ça.
Non, mais c'est décevant.
Ah, complètement.
Tu t'attends à un truc mieux que... En plus, cet accouplement du tome 1, ça fait bien longtemps qu'on l'a oublié, comme tout le tome 1.
Surtout qu'on a dit que le tome 1, ça sert à rien de le lire.
Exactement. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment ta gueule,
surtout
c'est magique.
Surtout quand on sait que le tome... Quand on sait
c'est
que
pas
le
dans le tome 1. Hein.
C'est peut-être le 2, non?
C'est pas dans le tome 1.
Bah non, parce que c'est... Enfin, vu que Susanna et Eddie sont déjà avec Roland...
Oui. Non, pas au moment où Roland se tape
le
sujet.
Ah non, à l'accouplement avec l'oracle. Ah oui, de Roland ok, oui. Oui, c'est
oui, puisque, ouais. Puisqu'elle est sur le point de faire du mal à Jake, il me semble, et du coup.
Elle est en train d'attirer Jake.
Jake, il a 11 ans, quoi.
C'est vrai que c'est un peu loin.
Oui, il récupère Jake
surtout,
à ce moment.
Surtout quand tu sais que quand il a écrit le pistolero, les nouvelles du pistolero, je sais pas s'il avait vraiment en tête toute l'histoire, ça fait vraiment aller repêcher une info du tome 1. C'est vrai que j'ai ça dans ma valise.
Il y a ça participe aussi à la construction de la mythologie de la tour, de l'ensemble du cycle.
Oui,
de les lier ensemble les bouquins, que des actions qui paraissaient cons et qui servent à rien, ils leur trouvent quelque part une utilité quand même.
Oui, et c'est là où tu vois toutes les préparations paiement. C'est vu qu'on approche quand même de la fin, tu te rends compte que tout ce qui s'est passé, qui semblait un peu gratuit au début, trouve une certaine logique, une certaine cohérence dans les événements du futur, quoi.
Il y avait peut-être pas pensé au départ, mais il s'est dit, je vais pas laisser un truc comme ça sans aucun résultat, sans aucune conséquence derrière. Et la conséquence, c'est que Roland, il a fait un gosse à Susanna au final.
Ouais. L'insémination artificielle dans l'entre-deux-mondes.
C'est ça.
C'est ça.
C'est exactement ça.
C'est une FID, fécondation in demon.
Oui, et c'est une sorte de GPA aussi, finalement.
Oui, aussi.
De gestation pour autrui.
Oui, tout à fait.
Alors, question suivante, posée par Susanna. Est-ce que Mia est un démon? Est-ce qu'elle est bien une partie de Susanna ou les deux? Et alors, Mia, elle sait pas. Susanna la provoque en disant de toute façon qu'elle n'est que la nounou du petit gars, et Mia s'énerve. Son petit gars va conquérir le monde et tout détruire. Susanna a repris du poil de la bête et ne se laisse plus impressionner. Elle explique à Mia qu'elle est une truffe, que ses amis qui doivent l'appeler vont lui prendre son bébé et en faire une arme surpuissante, mais elle, ils vont vite s'en débarrasser. Susanna insiste pour savoir qui est Mia. Cette dernière hurle qu'elle ne le sait pas, et à ce moment-là, Détat refait surface. Et Détha, elle, ça lui va pas du tout, ses explications. Il y a autre chose. Elle pousse Susanna à réfléchir. Mia est une partie de Susanna, puisqu'elle a accès à ses souvenirs. Mais elle sait aussi plein de choses que Susanna ne sait pas, sur les démons, entre autres, puisque là, elle vient de lui donner plein d'explications. Mais Mia, c'est pas un démon pour autant. Et puis, elle a des soi-disant amis à New York. Susanna trouve pas. Elle essaie de processer là, toutes les infos, mais elle trouve pas. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Fin du voyage va à Dash, Mia prend les commandes, retour à la vraie vie. Au bout du fil, il y a Richard Sayre. Alors, j'avais aucun souvenir de lui, mais en fait, on l'a déjà croisé.
Et oui.
Susanna essaie de se rappeler où. À ce moment-là, on ne nous le dit pas. Juste, elle sait, elle se souvient qu'on l'a déjà croisé, mais elle ne se rappelle pas où. Il promet à Mia...
Je ne sais pas si on nous le redit après.
Oui, oui, oui. Okay. Oui, oui, après, moi, je l'ai écrit plus tard.
Bah, je le dis pas maintenant.
Si, puisque j'ai écrit plus tard, Susanna se souvient. Hmm. Donc, Richard Sayre, il promet à Mia qu'elle pourra s'occuper de son enfant pendant 5 ou 7 ans, mais il s'agit de l'enfant le plus important de l'histoire. Il dit aussi à Susanna que Mordred ne pourra pas tuer son père, puisque Roland va mourir dans quelques minutes, et puis Eddie aussi, donc comme ça, ça règle le problème du père et du beau-père, finalement. Mia a rendez-vous au Cochon du Sud, au coin de la 66e et de Lexington. Alors, le Cochon du Sud, c'était aussi dans le...
Dans le petit poème. Ah, il est dans le poème.
Ouais. Et puis, elle est pressée d'y être, Mia. Et là, Susanna se souvient que Richard Sayre, tu veux le dire, grand poil, puisque toi, tu te souvenais.
Oui, que Richard Sayre, on l'avait déjà croisé. Enfin, c'est Callahan qui l'avait déjà croisé, en fait.
Oui, c'est celui... C'était le chef des méchants dans le building duquel Callahan a sauté par la fenêtre.
C'est ça, un vampire.
Ah, alors, oui.
De type, je sais plus combien, j'avoue que j'ai oublié la chronologie des vampires.
C'est un, deux, trois.
C'est un, deux, trois.
Ça
ouais,
va
je sais...
jusqu'à quatre, non vous avez
je crois que c'est, je sais, ouais, mais je sais plus si c'est les types 1 qui sont les plus forts ou si c'est les types 4. Je me souviens
pas
que
c'est
les
1.
Type 1, ouais.
Les 1 et les 3 sont sympas, les 2 ils servent à rien.
Les 2 peuvent faire des 3 et 3 ils servent à rien.
Ah non, ouais. Mais les deux, c'est les deux qui servent le plus à rien. Ils font des trois, puis ils crèvent. C'est vraiment... des trois, au moins.
Ah oui, oui, oui.
Et donc, elle comprend aussi que Mia est l'oracle. Celui qui a failli bouffer Jake dans le tome 1. Et si quelqu'un veut développer, parce que moi, j'ai rien compris, je vous laisse la parole.
Bah en fait, elle comprend juste que le démon qui a servi à transporter la semence de Roland est en elle aussi. Elle est pas venue toute seule.
En fait, c'est c'est peut-être la part féminine du démon qui est restée pour,
donc,
pour faire
Mia,
la gestation.
Mia, c'est la succube, ouais.
Ok.
Ok, moi, je l'avais pas du tout...
Et elle serait là depuis le viol, quoi.
Ok.
Mais alors, surtout, elle se rend compte que Mia est là depuis donc très longtemps, et qu'elle a écouté tous les plans et toutes les conversations, et qu'elle a répété à Sayre où il pourrait trouver Roland, après qu'il ait passé la porte de la caverne. C'est qu'une sale cafteuse.
La connasse.
Et là, Susanna et Detta, elles font bloc, et elles rentrent dans le lard de Mia, et puis ça se bastonne. Mia prend le dessus, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour le petit gars. Elle boucle Susanna dans un coin où elle ne peut plus rien faire. Mia ne regrette rien, elle se met en route pour le Cochon du Sud. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette partie, puisque là, on va changer de décor.
Nope.
Non.
Septième couplet, l'embuscade.
L'embuscade qui est un cocktail canet, du coup. Comment on dit canois, canet ?
Canet, c'est à canne.
Ok, tu veux nous dire comment c'est fait l'embuscade ou...
Moi j'aimerais bien.
Alors c'est bière, calva, liqueur de je sais plus quoi, et puis du vin.
Ah ouais.
Ah bah ça porte
blanc,
bien son nom, hein. Pardon ?
Bien. Du vin comment ? Du blanc, je suppose ?
Vin blanc.
Du blanc, ouais.
À ça, tu mets du modération.
Enfin, tu mets du sirop de citron, là, mais non. Non, je m'inscris en fou.
C'est la grenadine. Hein. Au fond du verre.
Ouais.
Pour un peu de sucre, quand même.
Un petit peu de sucre, ouais. Mais voilà, c'est surtout de la bière, du vin et du calva. Hein. On va pas se... Et il y a du sucre dans le calva. Pas se mentir.
Oui, bon, y a du sucre partout dans ce cocktail, enfin, dans tous les éléments utilisés.
Oui, bah sur c'est cassis, que... vin blanc, calvados et bière.
Cassis, en merci. Fait,
d'après Wikipédia.
Il t'attrape et il te tape par derrière.
Ça a l'air horrible.
À consommer avec modération.
Oui, oui, n'en buvez pas plus d'un litre.
Alors, dans ce septième couplet, on retrouve Roland et Eddie après leur passage chaotique de la porte à laquelle Eddie s'est cogné très très fort en passant. Roland est plein d'arthrite, ouïouïouï, et Eddie est à moitié dans les vapes, aïe aïe aïe. Les voilà pris en chasse par un sniper. Ils ont le temps de se cacher dans une épicerie, mais c'est chaud. Après la carabine, c'est la mitrailleuse qui se fait entendre et qui tue deux clientes de l'épicerie. Il est très clair pour Roland que les assaillants sont des écumeurs et qu'il les attendait. Il repère parmi les écumeurs, du coup, Jacques Andolini, le bras droit de Balazar, c'est celui qui se fait bouffer par les omastruosités dans le tome 2.
Donc soit ils sont pas dans le même monde, soit ils sont revenus un peu avant.
Ouais, c'est ça. Donc, pour... la manière dont c'est présenté à ce moment-là, c'est qu'il est mort dans un autre monde, mais dans la bouche, surtout d'Eddie, quand il parle d'un autre monde, des fois, il parle d'un autre camp, en réalité. J'ai l'impression que la manière dont c'est traduit, c'est un autre monde au sens où on pourrait dire... tu vois, c'était il y a tellement longtemps que j'ai l'impression que c'était une autre vie. C'est pas très clair à des moments.
Mmh. Alors, ça sera clarifié juste après, je crois.
Ouais, mais c'est ça. Et donc là, bon, on nous dit il est mort dans un autre monde, il l'est pas dans celui-ci, et c'est parce qu'il y a d'innombrables mondes autour de la tour, mais un seul est le vrai, mais on sait pas lequel. Ça se canarde sévère quand arrive un camion plein de rondins de bois qui perd le contrôle et vient défoncer tout sur son passage et se renverse. Donc il tue des gens, enfin des méchants. Roland, Eddie et les deux survivants de la boutique en profitent pour se barrer par l'arrière. En fuyant, Eddie se prend une balle dans la jambe, ça fait mal, mais c'est pas une flaque, alors il avance. Sur les ordres de Roland et Eddie, le client toujours en vie se précipite sur la pompe, parce que dans les deux qui suivent, il y a le client et le patron de l'épicerie.
Ouais, j'ai noté d'ailleurs que le client, s'il s'appelle John, il était imperturbable. Vraiment, le mec, il... Ok, ouais. Ça canarde, je fais mon taf.
Ouais, d'ailleurs, Roland le dit à plusieurs reprises, heureusement qu'il garde la tête froide et qu'il réagit bien. Donc sur les ordres de Roland et Eddie, le client toujours en vie se précipite sur la pompe à essence et la déverse sur le parking. Pendant ce temps, Eddie joue la montre en cherchant à s'adresser à Andolini. Ça continue de canarder, aucun moyen de savoir combien sont les méchants, mais une chose est sûre, ils sont là pour eux. Ils savaient qu'ils arriveraient, ici et maintenant. Eddie a peur que Callahan et Jack aient le même accueil de leur côté et ne s'en sortent pas. Mais il se dit aussi que si un des membres du quatet meurt, il le saura de suite. Donc ça canarde toujours, Eddie, Roland et John, le client, qui, à mon sens, je trouve qu'il tombe un peu trop bien. On verra plus tard si j'ai raison de me méfier ou pas, mais je lui fais pas confiance à ce moment-là, en tout cas. Foutent le feu à l'essence répandue partout et se barrent à travers la forêt en suivant tous les signes que c'est bien le sentier du rayon. Genre les nuages, le sens du vent, c'est le sentier du rayon. En ce qui concerne John, Roland remarque une grosse bagnole avec écrit « John Deere » dessus. Alors, en fait, au moment où j'écris ça, pour moi, c'est en lien. Et après avoir fini la première partie du roman, je sais pas si c'était en lien ou pas, parce que King et les prénoms, quoi. En tout cas, il voit une grosse bagnole avec écrit John Deere dessus, et il se souvient qu'il a déjà croisé ce nom. Et alors, est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on a déjà croisé ce nom? Perso, j'ai fait une recherche dans les bouquins pour trouver.
Pour trouver John Deere?
Sur un tracteur.
C'est une marque, ouais. C'est une marque de tracteur,
pour,
ouais.
Pour moi, il l'avait croisé, mais c'était pas un nom de personnage, c'était un nom de marque qui croisait, qu'on voyait, genre, du côté de Citgo, des choses comme ça.
Ok.
Non
Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Deere, c'est le nom d'un des... d'un des stewards de l'avion où Eddie est planqué dans le tome 2, où il cache de la drogue.
Ah oui.
Ah, t'es allé loin, ouais, non.
Ah, mais après, j'ai tout dans la liseuse, j'ai fait rechercher.
Mais pour le coup, je pense que sur ce, enfin, ça n'a pas de rapport dans le sens où ce serait à peu près le même monde. Là où John Deere, on sait que c'est une marque dans notre monde et que je pense qu'il n'y avait pas vraiment de lien sur celui-là.
Oui, parce que si je ne me trompe pas, il y a beaucoup plus de John Deere aux États-Unis qu'ici.
Quand il nous cite des marques, c'est que généralement on les a recroisées dans le monde en mode un peu dégradé, délabré.
Pour moi, c'était pas une marque en fait, une grosse bagnole avec écrit John Deere. Je me suis pas dit que c'était comme une grosse bagnole avec écrit Mercedes. Bah, je pensais qu'il y avait une pub dans John Deere, j'en sais rien, plombier, tu vois.
Les pelouses, ça se tombe pas tout seul, hein.
Donc au bout du chemin, il y a un lac. Et coup de bol, John est venu en bateau. Hop, tout le monde embarque, mais avant ça, Roland se tapote trois fois la gorge. Eddie se dit qu'il faudra qu'il demande à Roland pourquoi il fait ça. Mais King nous glisse qu'il n'aura jamais l'occasion de le faire parce que la mort se sera glissée entre eux bien avant. Est-ce que tu pourras mettre là un petit jiggle genre ton 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 ton.
J'avoue.
Ça t'a énervé, Urde?
Ouais, j'aime pas trop les trucs comme ça, je suis pas fan.
C'était la dernière fois qu'ils se voyaient.
Ouais, c'est... Je suis pas fan de ça.
Alors, je reviens à John Deere. Dans Concordance, en effet, ils en parlent pas dans le Concordance des trois derniers tomes, ou alors j'ai mal cherché. Sinon, ils renvoient à Eddie Dean. Et c'est en effet, le copilote du vol Delta 901, qui faisait Nassau New York.
Ah. Oh, bien joué, Pomme.
Non, j'avais raison.
Ouais. Tu l'as bien attrapé.
C'est comme ça qu'il est référencé dans Concordance, en tout cas. Donc c'est ça.
Je crois que tu, oui, quand je vois la suite de ton résumé, tu vas pas évoquer les 2-3 points que j'avais notés, moi, justement, sur le fait que on est bien dans un monde différent. C'est Roland qui dit qu'il sent que c'est qui sont dans le monde, dans le dernier monde, dans le seul monde réel, le seul monde vrai, dans lequel le temps ne va que vers l'avant. Donc c'est pas un monde dans lequel ils peuvent revenir en arrière.
T'as bien fait de le noter parce que je m'en souviens même pas. Ok.
Donc c'est là où il pense être dans quelque part dans le seul et unique ou presque ou le dernier monde réel qui existe, le plus vrai comme il le dit.
Ok. Donc une fois sur le bateau, les trois larrons échangent un peu. Le Gus s'appelle John Columb. Il serre la main de Roland puis de Eddie et lui demande s'il ne vient pas de se passer quelque chose entre eux. Alors Eddie dit que Susanna a été enfermée parmi eux en 1999, mais qu'elle peut avoir accès aux Dogan, mais que ça ne sert à rien. Susanna ne peut rien faire, et hop, Eddie remet les pieds sur terre. Ce passage était peut-être pas très clair dans la manière dont je l'ai retranscrit.
En gros, je pense que ouais, c'est le moment où il capte le message que Susanna lui a envoyé depuis le Dogan.
Ouais.
C'est ce que j'ai compris, ouais.
C'est ça. Et John a capté qu'il s'était passé quelque chose dans les yeux d'Eddie, quoi, en gros, en lui serrant la main, voilà.
Il a eu une absence, genre...
Ouais. Mais surtout, il a dit à voix haute. Il a dit à voix haute, Susanna était enfermée par Mia, machin. Le message, ah oui, en fait, il l'a dit à voix haute à ce moment-là. D'ailleurs, John, il dit à Roland, mais ça lui arrive souvent. Et Roland, alors je sais plus s'il répond pas souvent ou un peu trop souvent, mais bon, bref. John demande à nos deux amis s'ils sont des entrants. Alors, il explique qu'il y en a plein depuis quelques années dans le coin. Ils débarquent, on comprend rien de ce qu'ils disent. Des fois, ils sont très amochés, voire brûlés, et hop, ils disparaissent. Roland pense que ceux qui sont cramés... Alors, il entend les crânés au départ, donc ils sursautent, mais en fait, c'est les cramés. Ce sont des lents mutants.
Alors, juste un autre détail aussi, je pense qu'il entend crâner parce que on nous dit que John Columb, il parle un peu avec le même accent que celui de la Cala.
Ah oui,
il accentue les mots un peu comme eux. En français, ils nous disent qu'ils prononcent bateau beteux.
Oui, alors ça, c'est un truc que j'avais noté. Après, je me suis dit, mais non, en fait, t'as mal compris, donc je l'ai retiré. Puis ils en reparlent. Oui, John Columb, qui tombe bien comme de par hasard, parle comme les gens de la Cala.
Voilà, il utilise aussi du vocabulaire.
Comme de par hasard.
Voilà.
Mais tout est lié.
Et il a des bottes. Il a des bottes qu'on pourrait trouver à la Cala aussi. Eddie le remarque. Donc il pense que ce sont des lents mutants, ceux qui sont cramés. John explique qu'il y a eu des recherches là-dessus par des pseudo-scientifiques, mais que personne n'a vraiment d'explication. Donc oui, Roland et Eddie sont des entrants selon la définition que John donne à ce mot. Mais Eddie précise qu'il vient bien de Brooklyn, mais d'un autre Brooklyn, dans un autre monde. Ou peut-être, enfin moi à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il dit un autre monde, comme il pourrait dire plutôt un autre moment. Mais maintenant, stop les questions, le bateau est arrimé, il faut se bouger le cul.
Mais il n'y a pas un truc avec Brooklyn, alors si, bon, moi, le Brooklyn de New York et le Brooklyn de... Non,
ah,
pas
oui,
de...
Oui,
c'est pas la c'est même, peu, c'est pas le même point.
Après, c'est après qu'on va voir que le quartier de Eddie, en fait, il ne se trouve pas au même endroit de New York dans son monde à lui et dans le monde où ils sont.
Ok, désolé.
Non.
8e couplet, à pile ou face.
Une fois chez Columb, Eddie se soigne, parce qu'il a toujours une balle dans la jambe et apparemment il en chie des caisses, il a l'air d'avoir vraiment très mal. Roland fume une clope, ils apprennent qu'on est le 9 juillet 1977 et il va être temps de se bouger le cul pour retrouver Calvin Tower. Roland et Eddie le décrivent à Columb, qui voit tout à fait de qui il s'agit puisqu'il a fait savoir à tout le canton qu'il cherche des vieux livres. Roland veut que Columb les dépose chez Tower, puis qu'il se barre loin. Eddie veut d'abord
toujours aussi discret. C'est...
Oui, Eddie a envie de le buter en fait.
Il a raison.
Ah, il est vénère à ce
truc-là.
Ouais,
tu m'étonnes.
Ouais.
Eddie veut d'abord éclaircir 2 ou 3 points et notamment qui est ce Stephen King. Est-ce que Columb en a entendu parler? Et visiblement, oui, il en a entendu parler.
Ouais,
d'ailleurs,
il écoute le roi Stephen.
Exactement. Et d'ailleurs, il a lu Salem, le roman qui raconte l'histoire du père Callahan. Il a entendu l'auteur donner une interview à la radio et dans la tête d'Eddie, ça carbure. Il est sûr que c'est une info importante. Ils sont poursuivis par le roi cramoisi. Et King, ça veut dire roi. Est-ce que Stephen King est le roi cramoisi?
Coïncidence? Je ne crois pas.
En tout cas...
À ce moment-là, je suis en PLS, je suis là, ce qui va se passer, voilà.
Mais en PLS, dans quel sens? Genre, ah, il me tarde de savoir la suite et...
Non, je sens que ça va être nul, en fait. Donc je verrai, mais là, j'étais vraiment en mode... J'étais là, non.
Je suis tellement passée par les mêmes trucs que toi que j'ai fini par envoyer ma théorie à Grand Poil en lui disant « Dis-moi si c'est ça ou pas, là j'ai besoin de savoir. Tant pis si ça spoil la fin, mais là j'ai besoin de savoir si ce que j'en
ai. » Non, moi
j'étais obligé de mentir pour qu'elle reste dans le podcast, hein, je voulais vous.
Tu sais que je me suis dit, il m'a peut-être menti, mais sur le moment, ça m'a permis d'arrêter de penser à ça et d'avancer dans le bouquin parce que je n'arrivais plus à me concentrer tellement j'étais en mode « Putain, mais si la fin c'est ça, je suis en train de passer des heures et des heures de ma vie pour cette fin-là. » Et si ça se trouve, c'est vraiment cette fin-là, il m'a menti juste pour mon bien. Et je te remercie. Pour l'instant, je te remercie de l'avoir fait, en tout cas. Peut-être qu'à la fin, je te détesterai, je voudrais plus jamais entendre parler de toi. Pour l'instant, je te remercie.
J'ai hâte. Je ne dirai rien de plus.
J'ai hâte de plein de trucs, hein, maintenant qu'on approche de la fin, mais là, de juste la fin de cet épisode, qu'on puisse débriefer cette partie, parce que moi, j'ai eu, entre ma première et ma deuxième lecture, je suis passée par des émotions complètement différentes.
Ok. Bon, en tout cas, il vit dans le coin, Stephen King. Et il y a plein d'entrants qui débarquent comme de par hasard de par la vie, dont une femme chauve avec un œil sanguinolent au milieu du front, et donc a priori une disciple du roi cramoisi. Mmh. Et il a écrit la vie de Callahan dans un bouquin, donc ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul bonhomme. Mais Eddie n'arrive pas à aller plus loin dans sa réflexion. Tout d'un coup, il revoit Susanna et il lui semble l'entendre l'appeler à l'aide. Roland le sort de sa torpeur. En fait, King et sa famille se sont installés dans le coin au moment où les entrants ont fait leur apparition. Pour Colum, il y a forcément un lien. Maintenant, c'est vraiment l'heure de partir. Roland et Colum dans une voiture, Eddie dans l'autre, ou le contraire. En fait, c'est le contraire. C'est Roland et Eddie dans une voiture et Colum dans l'autre.
C'est ça. Et Eddie, ça lui fait bizarre de reconduire. J'ai trouvé ça marrant.
Et oui, ça fait très longtemps. Puis il conduit avec une balle dans le
mollet.
Dans la jambe, quand même.
Ouais, oui, mais c'est une automatique, c'est pas grave.
Oui,
voilà, ouais, justement, il dit c'est une automatique, ça va, parce que sinon ça aurait été un peu relou.
J'ai tellement l'impression que tu dis Gollum, parce que moi, en le lisant, lisais un peu Cullum, tu vois.
Cullum.
Ah, peut-être une minute.
Et du coup, j'entends Gollum, et j'imagine une version complètement différente. Et dit, part avec Gollum.
Un Gollum avec un accent.
La tour sombre, c'est le
Seigneur des Anneaux de King.
Exactement, c'est le Seigneur des Anneaux de King. Je peux dire, comment tu dis, du coup, toi, Cullum?
Ouais, je disais, ouais, mais dis-le comme tu veux, hein, mais moi je lui disais Cullum, ouais, plutôt.
J'ai pas d'avis.
Je crois que c'est Cullum.
Je vais l'appeler John, mais... sinon.
Plutôt c'était Cullum, ouais.
Moi c'est Cullum dans ma lecture. Et du coup, en audio, c'était Cullum aussi.
Ah ouais. Dis Cullum rapidement trois fois pour voir.
Cullum.
Neuvième couplet. Eddie tient sa langue.
Après, Cullum, ça fait un peu Cullen, comme dans Twilight. Mmh. C'est l'un ou l'autre.
Comme Tom Cullen dans le...
Moi, j'avais plus Tom Cullen,
du coup.
L'autre, Emily, tu penses
j'étais
à Twilight, alors qu'on a une ref évidente à Steven.
Non, j'étais plus sûre, en fait, j'avais peur de faire une bourde, donc du coup, j'avais fait une autre bourde.
Donc, dans le tome précédent, Callahan avait passé la porte pour venir dans le bled de Tower pour lui laisser un mot lui indiquant de se barrer rapidement en laissant une information sur où il prévoit d'aller à un endroit prédéfini par Callahan. Et surtout d'être très discret. Mais Tower n'a pas tellement suivi ses consignes, bien au contraire. Durant le trajet, Eddie remarque location Jafford sur certaines maisons, nom que notre catette préférée a déjà croisé à la Cala, puisque c'était le nom d'une des personnes, d'un des couples importants, là, les Jafford. Mmh. Une fois arrivé à la cabane de Tower, au bord du lac, il n'y a aucune voiture et ça semble vide. Roland a capté que Eddie a envie de buter Tower, mais il lui rappelle que lui-même ne l'a pas tué à Eddie à leur rencontre dans le tome 2, alors qu'Eddie devrait pouvoir s'en sortir. Alors qu'il avait très envie, Roland, de buter Eddie quand il l'a rencontré.
C'est quand même un putain de chantage.
Non, je pense que c'est plus j'ai réussi à pas te tuer, donc tu y arriveras aussi. Plus, tu vois, t'as la force d'y arriver.
Oui.
Moi, je l'ai plus vu comme ça, en fait.
C'est vrai.
Avant que John s'en aille, Eddie lui demande où se concentrent les apparitions d'entrants. John précise que c'est autour d'un endroit que l'on appelle le chemin de la tortue. Alors, c'est peut-être pas le chemin de la tortue, en fait. Je me suis peut-être trompée sur le nom, mais c'est en gros...
Le chemin du dos de la tortue.
Le chemin du dos de la tortue.
Ça va.
Il cite un philosophe grec, je crois que c'est un philosophe grec, qui disait que la vérité est un pilier creux en son centre. John raconte aussi que dans les années 50, il était gardien à la prison du Maine, donc je suppose que c'est un petit clin d'œil à Shawshank. Il parle d'un détenu qui est dans le Vermont maintenant. Eddie trouve qu'il y a quelque chose de faux dans son histoire, et quand John s'en va, il essaie de se convaincre que ce type est bien un dent-tête. Donc c'est le moment de ressortir les petits carnets. Un dent-tête, ça veut dire un petit sauveur. C'est le gars qui tombe bien, en fait.
C'est ça, le mec est le providentiel. En fait, je crois qu'ils le disent, mais il en est pas sûr, et surtout au moment de cet adieu, il y a une désagréable impression qui lui reste à Eddie, on sait pas trop pourquoi.
Il dit c'est pas un adieu déjà, il a l'impression que c'est pas vraiment un adieu. Il a l'impression que l'histoire de John Colum sur sa prison, le gars dans le Vermont, tout ça, il y a un truc qui cloche. Et moi, de toute façon, je l'ai déjà dit depuis un moment, ce mec-là, il y a un truc chelou.
Bah, vu comment c'est écrit, c'est bon, oui. Tu sens qu'il y a
Et puis en plus, Eddie, c'est celui qui a le plus d'instinct, en fait. Donc, c'est pas déconnant que ça lui dise un truc, quoi.
Et l'histoire du détenu dans le Vermont, spontanément, j'ai pas la ref. Je me suis noté, vu que là, on fait un épisode que résumé d'une partie du tome, je me suis noté pour la prochaine fois, quand je ferai les connexions, d'aller le chercher. Mais s'il y a des gens qui l'ont, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à nous le dire sur les réseaux sociaux et tout, comme ça.
Non, il apparaît pas dans Shawshank. C'est pas un des gardiens de la prison nommé comme ça.
Dans Retail Wars, non, je crois pas. Après, Shawshank, on l'a tellement... Shawshank, on l'a dans... Enfin, c'est référencé dans plein d'histoires de King, donc c'est peut-être juste une référence sans être dans cette histoire-là de dire tel prisonnier est allé à Shawshank et après, elle est dans le Vermont, quoi.
Oui, ouais, ça
peut être n'importe qui,
ouais.
À voir.
Oui, puis vu que c'est un autre monde...
Ouais.
Oui, en plus,
c'est
ouais.
Pas... Voilà, ouais.
On en rêvait.
Oh non. Non, on l'a déjà eu par écrit, c'est largement suffisant.
Ah, j'avais pas
c'est
vu.
La deuxième fois.
Donc en fait, les lieux ne sont pas vides. Dipno est planqué dans le hangar à bateau. Donc Dipno, c'est le pote de Calvin Tower. Au début, il se méfie de Roland et d'Eddie, mais après, ça va. Il se demande si Tower a été tué par les autres. Il a bien vu qu'il y avait eu un incendie, tout ça. Une fois installé autour d'un café, il est temps de faire un point sur à quel point Tower est une tête de con, et surtout de parler business. Dipno est avocat. Roland lui demande de créer le document de vente de la parcelle de la Rose entre Tower et la Tête Corporation. Mais il y a un problème. Tower et son incapacité de céder ce qu'il détient ne veut plus leur vendre le terrain vague. Il s'est mis en tête qu'ils allaient l'arnaquer. Même si Dipno pense au fond que Tower sait que c'est la meilleure chose à faire, il peut pas, il y arrive pas, quoi.
Quelque part, ça fait de lui un bon gardien, hein. Il lâchera pas l'affaire.
Ouais. Oui.
Oui, mais c'est peut-être pour ça que ça a marché aussi, c'est vrai.
Roland redemande à Dipno de faire le document et lui se chargera de convaincre le têtu. D'ailleurs, le voilà qui arrive. Et Eddie a envie de le dégommer. Mais il se retient, au moins jusqu'à ce que la vente soit signée.
Ah, puis là, il se retient vraiment en mode, il serre les dents. Hein. C'est vraiment, il aurait le flingue dans la main, il partirait le coup.
Il décrit qu'il se mord la langue tellement qu'il y a du sang qui coule.
Moi, je pensais qu'il allait mettre ses doigts dans le trou de la balle, tu vois. Mais il l'a pas fait, j'étais un peu déçu.
Quand Tower voit les occupants de sa maison, il leur ordonne de partir et dit qu'il ne vendra jamais. Eddie lui explique pourquoi il va vendre et qu'il est un sac à fientes et monte crescendo en pression. Il lui dit qu'il espère que c'est Mia qui a amené les hommes de Balazar jusqu'ici et pas son imprudence, parce que lui aussi il se doute du coup que Mia a entendu leur discussion et a peut-être balancé des infos. Dipno finit par dire à son ami que les autres ont raison et qu'il est temps d'arrêter de faire de la merde. Et ça, c'est un vrai ami. Un vrai ami, il sait te dire à un moment donné, là, tu fais de la merde. Tower vérifie l'identité de Roland, de la lignée d'Eld, puis lui parle dans une langue que Eddie ne comprend pas. Roland répond dans cette langue. Tower semble alors lâcher prise et demande à Roland de venir dehors discuter avec lui. Eddie demande à Dipno de préparer les contrats de vente. Pendant que Dipno s'exécute, Eddie souffre le martyr à cause de la balle dans sa jambe. Dipno lui propose alors des cachets qui ont l'air vraiment forts puisqu'il est réticent à donner à Eddie les 4 qu'il demande.
Super Cossette.
Ouais.
Fameuse chanson de 50 Cent ? Je ne sais plus.
Ça n'a
aucune idée.
Moi non plus, mais c'est proche de la... Comment ça s'appelle ?
Mais c'est de la morphine ou c'est de l'opium ? Je ne sais plus. Un des deux.
Entre les deux, quoi.
d'un truc très fort.
Oui.
Qui est pas bon pour l'ancien drogué qui est...
C'est ce que j'allais dire, non.
Ouais. On va en parler après. En papotant avec Dipno, Eddie découvre que son quartier, son quartier dans lequel il a grandi s'appelle Co-op City. Et donc Dipno lui dit, mais Co-op City, c'est pas à Brooklyn, c'est dans le Bronx. Donc, Eddie en conclut qu'ils sont pas du même monde, que dans son monde à lui, Co-op City est à Brooklyn, et que dans le monde de Dipno, Co-op City est dans le Bronx. Et là, dans la tête de Eddie, ça devient la foire à la saucisse. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas? Quel est le monde clé? C'est la matrice, quoi. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que... Voilà.
En même temps, pour sa défense, mais... c'est pas simple.
C'est trop ça.
Ah non, mais c'est simple pour personne. Moi, je préfère que ce soit dans sa tête à lui que dans ma tête à moi. Voilà, donc, Calvin Tower et Roland qui reviennent. Calvin Tower est prêt à signer. Eddie se rappelle qu'il faudra leur parler d'aller sauver Callahan dans quelques années. Remember le tome précédent. Et tout d'un coup, il prend conscience que le terrain et donc la rose leur appartiennent. Mais il n'oublie pas qu'il a une balle dans la jambe.
C'est difficile à oublier quand même.
Alors que Roland est sur le point de charcuter la jambe d'Eddie, celui-ci a une illumination. Ce qu'ils ont vécu à la Cala ressemble beaucoup au film Les Sept Mercenaires. Et le réal de ce film s'appelle John Sturgis, comme la Cala, Calabrine Sturgis. Roland dit que c'est le cas.
Moi j'ai noté qu'au moment où... où Roland s'approche de Eddie pour lui retirer sa jambe, parce que je me souviens s'il n'avait pas faire une julienne parce qu'il a des tenailles et un couteau à éplucher.
Eddie réfléchit au fait que dans n'importe quel western, il y aura la scène de la balle à extraire de la jambe. Il a une autre illumination. Si ça se trouve, il est un personnage écrit par un écrivain. Et il pense avoir grandi à Brooklyn parce que cet écrivain s'est planté en plaçant Co-op City dans son livre. Et c'est vrai que jusque-là, on a eu plusieurs cas de bouquins où il y avait une faute de frappe, une coquille, une erreur à un moment. Donc.
Et là, donc, vu ce que tu nous as dit tout à l'heure, j'imagine Urs qui continue à être en PLS. Non, pas ça. Non, pas ça.
Moi, donc. Enfin, moi, on avait déjà discuté, toi et moi, à ce moment-là. Donc, j'étais un peu plus tranquille. Mais... Comme le père Callahan... Il refuse cette éventualité. Et hop, Roland va chercher la balle. Donc il retire la balle de la chambre d'Eddie. Et Calvin Tower fait chier parce qu'il veut récupérer ses livres, ceux qui sont dans la grotte là qu'il a sauvé dans le tome précédent, Eddie. Et il veut surtout récupérer Salem de Stephen King. Parce qu'il vaut cher, à cause d'une erreur dans le résumé. Il y a écrit Père Cody au lieu de Père Callahan, alors que Cody, c'est le nom du toubib. Je sais pas si c'est important, si c'est un clin d'œil, si je m'en fous, je l'ai lu, je vous le dis.
Je ne sais pas.
Eddie hésite à prendre des médocs plus forts. Alors, j'ai cru que c'était des médocs plus forts, mais apparemment, c'est les mêmes que tout à l'heure.
Mais on va le prendre, ouais.
Ouais. Mais il sait que c'est la porte ouverte vers la rechute dans l'héroïne, donc finalement, il prend juste de l'aspirine, que Roland appelle de l'astine.
Je crois même que Roland lui fait les gros yeux quand il est prêt à dire « Ok, j'en reveux ».
Non, il dit juste qu'il croise son regard, un regard fermé, et il sait que Roland dira rien, qu'il le laissera faire. Mais il comprend ce que veut dire ce regard, ouais.
Et donc la chanson à laquelle je pensais, c'est sur le Percocet, c'était Mask Off de Futur.
Oula.
Voilà, je connais si pas. Vous voulez l'écouter.
Et ça parle de d'addiction, Percocet. J'imagine.
Je ne sais. C'était juste.
Tu es perdu.
J'ai juste réécouté vite fait pour m'assurer.
Roland et Eddie se. Oui, vas-y.
Non, vas-y, répète Percocet.
Roland et Eddie se préparent à partir pour aller voir ce fameux Steve Hooking sur une intuition d'Eddie. Et cette intuition est tellement forte que Roland... En fait, Eddie est prêt à retarder le fait de retrouver Susanna pour d'abord aller voir ce fameux auteur. Et du coup, Roland se dit « Ouais, donc c'est quelque chose de vraiment important, donc je lui fais confiance. » Tower, lui, ne veut pas bouger de sa cabane, mais Dipno insiste, là, il en a ras le cul. Et donc, en remerciement de la vente du terrain pour 1$, parce qu'ils vendent pour 1$ symbolique, Eddie rappelle à Dipno et Tower qu'il vient de l'avenir, et donc il ne faut pas qu'ils oublient le nom de Microsoft, en 82 en particulier, si j'ai bien compris, et de tout miser là-dessus. Eddie se demande si Roland a pu capter des signes de vie de Jake, Callahan ou Hoth, mais non, rien du tout. Fin de cette première partie.
Tintintin.
On a envie d'en savoir plus, quand même.
Va-t-on, ouais, va-t-on rencontrer ça. Steven? Va-t-il se jouer lui-même? S'écrire lui-même?
Oh bah oui, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il sera aussi bon que dans ses caméos?
Oui, à ce stade de la lecture, pour vous, Stephen King existe vraiment, c'est un... on va le rencontrer quoi?
Bah, oui.
Moi je sais pas, je laisse ouvert tout parce
moi,
que je veux
que
pas
je
être déçu.
Je crois que je sais parce que j'ai écouté un petit peu plus loin.
Ah bah chut.
Donc je ne dirais
pas. Pour ceux qui ne savent pas.
Pour ceux qui n'ont pas encore lu. Tout à fait.
Bah écoute, si jamais tu entends un pavé de livres traverser la terre entière, c'est que ça m'aura pas plu.
Toi, tu veux pas le rencontrer?
Alors, le rencontrer ou pas, ça m'est égal, mais c'est plutôt ce qui se passera après, en fait.
Moi, je me dis
une nouvelle étoile Starling.
À ce moment-là, King, il avait lu Le Maître du Haut Château. Et que.
J'ai vu la série, mais je.
Dans la série, je crois qu'ils expliquent pas la ref.
Dans l'histoire du Maître du Haut Château, c'est une dystopie qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale où les Allemands ont gagné. Et en fait, il y a une rumeur comme quoi un livre décrirait notre monde à nous, en fait, l'alternative où les Alliés ont gagné.
Ouais, ils en parlent dans la série.
Et où les gens.
Ah oui.
Et la quête des personnages principaux, c'est d'aller rencontrer le gars qui a écrit ce bouquin.
Mm-hmm.
Ouais, je me dis, ça ressemble un petit peu.
Ça ressemble pas mal, effectivement.
Je crois qu'ils l'ont pas appelé Kadik, l'auteur du livre.
Non.
Ils en parlent dans la série, mais je ne sais plus si la saison 1 ou le début de la saison 2. Là, j'avoue, j'ai un doute.
Pour moi, ce serait plutôt saison 2, parce que là je ne l'ai pas fini. Sur la fin.
Dans la série, ce n'est pas trop des bouquins, c'est plus des films de propagande
distribués. Des films de propagande, ouais. Je crois que c'est fin de saison 1 où on tombe dessus pour la première fois.
Pour sur le livre
quoi. Sur les films de propagande, du coup.
Voilà, mais du coup, ça, la série n'a pas grand... Enfin, dévie un peu du bouquin.
Oui.
Mais voilà, c'était juste, j'avais un petit peu des vibes du maître du haut château dans ce bouquin-là de King, justement, avec le fait qu'il s'insère dans l'histoire et qu'il ait écrit l'histoire du père Callahan. Je crois que, je sais pas si le père Callahan a lu le livre.
Non, il a pas lu. Mais tout le monde, il a juste, feuilleté, pris des passages,
feuilté,
où il s'aperçoit
qu'on
voit ses pensées, mais il l'a pas tout lu. Non.
Il sort. Ouais. Donc du coup, on ne sait pas si ce qui est écrit dans le bouquin est exactement ce qui lui est arrivé, ou s'il y a des déviations qui pourraient.
Le peu qu'il a feuilleté, ça correspondait. Ouais.
Sur ce qu'il a lu, ça correspondait, et même de manière trop précise, puisque ça parle même du monstre imaginaire qui lui faisait peur quand il était petit et dont il n'a parlé, dont il n'a jamais parlé à personne.
Mm-hmm.
Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette première partie ?
Juste pour rebondir sur ce que disait Emery King, il l'a fait plusieurs fois, le fait de faire référence à des œuvres à lui, mais en tant qu'œuvre d'un autre écrivain qui serait lui, parce qu'il y en a qui disent, comme dans ce roman d'horreur Shining, ou comme dans ce truc de l'auteur King, mais il a jamais poussé le truc jusqu'à faire une conversation autour de ça, et là le présenter, on verra ou pas, comme un personnage qu'ils vont essayer de rencontrer, quoi.
Bah, pour l'instant, c'est un personnage qu'ils vont essayer de rencontrer. Est-ce qu'ils le rencontreront pas ? C'est ça qu'on ne sait pas encore à ce stade-là. On va passer aux questions des auditeurs, puisqu'on garde tout le reste pour le prochain épisode.
Qui fera 8 heures.
Ok.
Je vous propose qu'on se partage la lecture des questions, ou quelqu'un veut s'y coller tout seul ?
Bon, il y en a 5, on peut y aller ? On te laisse tranquille, Pomme.
Vas-y.
Allez, allez-y.
Allez, je fais la première.
Vas-y.
Du Discord Podcut, nous avons Loylon Sandra qui nous dit « Coucou, bon enregistrement en avance. J'ai peu de souvenirs de ce qui est dans la première ou la seconde partie du livre, donc dans le doute, je pose une question plus générale. À ce stade de la lecture, avez-vous des hypothèses de comment va se terminer la saga ? Continuez, vous êtes les bestes. Bisous. »
Alors on a des hypothèses, mais est-ce que du coup on les... Enfin, ceux qui connaissent pas, évidemment, est-ce qu'on les...
On est deux, on va rien dire. Les autres, si vous avez des hypothèses, vous pouvez y aller. On essaiera de pas rigoler ou de rien dire.
On peut couper nos caméras déjà. Moi, je me souviens pensais de la suite de la saga à ce moment de ma lecture.
Ah bah si tu t'en souviens...
Tu peux nous le dire, ça nous dira pas si t'avais raison ou pas.
Moi, je voyais, à ce moment-là, j'étais vraiment... Vu que j'ai toujours une lecture très premier degré, où on en a parlé sur des interprétations de nouvelles, notamment le radeau et tout, je vois pas tout ce qu'on essaye, les surcouches de sens qu'on essaye de mettre ou quoi. Moi, j'étais vraiment dans une lecture très premier degré, en mode, il y a des aventuriers, ils vont à une tour. Et donc, les aventuriers allaient à la tour. Et j'espérais qu'on y arrive.
Oui, d'accord, t'avais pas d'autres... C'était juste des trucs qui se passent sur le chemin de la tour.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Moi, je n'ai pas d'hypothèse, j'attends de voir. Ce qui me pose plus de problèmes, c'est que les théories, ça devient assez compliqué de, de faire des trucs un peu plausibles. Donc, quand je lis, je me dis « Waouh, comment je vais m'en sortir ?» Mais sinon, sur les livres et les films, de manière plus générale, je suis pas trop la personne qui dit genre « Ouais, ça pourrait être ça et ça. » Non.
Vas-y, Julien.
Pour ma théorie ?
Ouais, si t'en as une.
Est-ce que t'en as une et est-ce que tu veux la partager ? Sur comment, comment ça va se terminer ?
Non, j'ai pas de théorie, mais j'ai plusieurs questions auxquelles j'espère avoir une réponse. Comme, qu'est-ce que vient foutre King là-dedans ? Et comme Urd, je crois pas que ça va être bien, ce passage-là. Mm. Si c'est King, j'espère pas. L'homme en noir, je l'ai pas oublié. Donc lui, il y a bien un moment où il va falloir qu'on le revoie. Et en fait, la tour, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, j'ai envie de savoir quand est-ce que Eddie et Roland, ils vont se foutre sur la gueule, parce que je suis aussi persuadé que ça va arriver à un moment ou à un autre, quoi.
Ah ben, je pense que quand Eddie va apprendre que le bébé Susanna, il est drôlant, il y a moyen qu'à un moment donné, il y ait peut-être une couille dans le potage, tu vois.
Ouais, soit ça, ou soit elle meurt en couche, ou tu vois.
Ils vont mourir.
Ce sont de bonnes questions.
Parce qu'apparemment,
ils sont censés mourir là.
Il y en a un des deux qui va mourir, mais peut-être que c'est l'autre qui le tue, on sait pas comment.
Non, attends, mais le couplet d'après, c'est genre Mia coupée en deux, ou je sais pas quoi. Enfin, tu. Ça sent pas bon. Sachant que.
Mais mentalement.
Alors, je suis désolé, parce que je sais plus si tu l'as dit, Pomme, mais à un moment, il dit il aimerait lui poser cette question. Mais la mort s'immiscera entre eux deux.
Et on en a parlé
jamais.
Même que Urd a dit que ça l'avait saoulé, ce truc-là, qu'elle détestait ça.
Ouais. Mais après, vu qu'il y a plusieurs mondes, ta gueule, c'est magique, on saura pas. C'est difficile de pronostiquer quoi que ce soit.
Ouais, mais ça sent la préparation au paiement de. Il y a un truc qui a mal se passé, c'est sûr.
Oui. Oui, globalement, quand même.
Merci, Pomme!
Ma théorie que j'avais peur, que tu m'as dit mais non ça sera pas ça, mais que en vrai si ça se trouve ça sera carrément ça et t'as juste été gentil, c'est que on découvre un truc du genre et en fait tout ceci était dans un livre et ça finit sur King qui ferme son dernier bouquin qui découvre qu'ils sont des personnages de romans écrits par quelqu'un, genre à la Toy Story, quoi. Tu vois,
comme à la fin des séries Dick Wolf, où on voit Dick Wolf qui finit de taper à la machine et qui balance ses pages.
Ah oui,
mais c'est ça, non mais c'est exactement ça. J'ai très très peur d'une fin comme ça. Si c'est ça, je vous avoue que putain, ça va être compliqué de me réconcilier avec King. Surtout d'avoir passé autant de temps à lire l'histoire. Alors oui, je sais, l'histoire compte plus que la fin qui compte chez lui.
Promis, je te promets un truc, on en choisit un super bien pour après le tome 7.
Ouais, c'est ça, c'était super bien choisi par qui, parce que, pardon. Hein. J'essaie de me rappeler que King est nul pour les fins, qu'il faut pas que j'attende trop de la fin, que ce qui est important, c'est ce que j'ai lu jusque-là, mais j'ai vraiment très, très, très peur de la fin. J'ai vraiment très peur de la fin.
Est-ce que le fait que t'aies peur de la fin, c'est influencé par le fait qu'on sache qu'il est pas très bon sur les fins, ou parce que vraiment là t'es un stade de ta lecture où t'envisages pas beaucoup de scénarios possibles et tu veux ce scénario-là et pas un autre?
Alors j'ai pas en tête de scénario que je veux, mais j'ai en tête de scénario que je veux pas.
Ok. Et tu te dis il est capable de tout.
Et celui qui se profilait, ben quand on dit le roi cramoisi c'est King, que c'est lui qui a écrit l'histoire du père Callan, etc. L'idée que ça me donne, j'ai vraiment pas envie que ce soit ça. C'est, pour moi, okay. Ça serait du même acabit que et là il se réveille et il se rend compte que tout ceci était un rêve.
Ok.
Voilà. Mais j'ai encore un tome et demi pour me rappeler que la fin, c'est pas grave.
Alors, oui. Tu dis en plus un tome et demi encore, avec la clé des vents.
La clé des vents, c'est vraiment une fin de, à part
non,
pour
non,
la
non,
fin.
Non, parce que ça se situe entre deux tomes d'avant.
Donc, ouais, voilà, c'est pour ça. Bonus. Je compte pas sur la clé des vents, du coup. Enfin, je, voilà. On verra.
Okay. Emmerich,
t'avais, ouais.
Alors moi, je pense que tout se passe dans une boule à neige qui est possédée par Tommy Westphal un jeune autiste dans la série Saint-Exupéry. Oh,
comme dans Man in Black.
Non, là je faisais juste référence à la théorie comme quoi toutes les séries de télé sont unifiées dans un même univers, dans l'imaginaire d'un jeune garçon autiste d'une série de télé qui date des années 80. Parce qu'en fait, en gros, on découvre à la fin de cette série que tout était dans sa tête. Il a imaginé tout ça en regardant une boule à neige avec un hôpital dedans. Et qu'en fait, comme tous les personnages, beaucoup de personnages de cette série ont fait des caméos dans d'autres séries, il y a eu des caméos dans d'autres séries. Il y a plein de séries qui sont je crois qu'il y en a plus d'une centaine qui ont été identifiées comme étant liées entre elles. Et donc, en gros, la théorie, c'est que toutes les séries de télé américaines sont liées entre elles dans un même univers. Imaginé par un enfant autiste. Non, moi, ce que je me disais, c'est on va finir par avoir le gamin de rage qui se réveille en plein cours parce qu'un prof l'engueule parce qu'il est en train de rêvasser. Et il imagine tout la tour sombre, mais aussi tous les livres de King. Et en fait, rage n'a pas eu lieu. C'était juste dans sa tête.
Oh, putain. Pitié, non. Non, parce que en plus, me connaissant. Si c'était un truc comme ça, ça annulerait l'amour que je peux avoir pour certains de ces bouquins. En me disant, ah ouais, eh ben ok, ils n'ont pas existé. Tu vois, ça, je sais que ça aurait ce genre d'effet sur moi, quoi.
Moi, j'ai quand même quelques doutes, parce que c'est assez récent, la fin du livre, donc c'est quand même du déjà vu, quand même, ces trucs.
Ok.
On verra.
Non, mais moi, je penche pour un univers intriqué. Des univers imbriqués comme on a déjà les indices là, quoi. Donc, je pense que la façon dont ça va se terminer...
Ou comme la fin de Sailor Moon.
À ce niveau-là, je ne sais pas.
Je sais même plus comment ça finit.
J'ai le droit de spoiler Sailor Moon.
Sailor Moon.
À la fin, elles meurent toutes et elles reviennent dans leur vie d'adolescente. Et elles se connaissent pas, elles savent pas leur pouvoir, tout ça.
Oh non!
Ah bah super!
Je m'en souvenais pas. Ah, j'ai peut-être pas vu la fin, tu me diras.
Alors je l'ai pas lu, c'est le dessin animé. Je sais pas si.
Alors, mieux que la
Sailor
fin
Moon, le dessin animé. Mais je. Ah putain, pareil.
Ah, t'en es à 100 dépressions comme ça suffit.
J'ai l'impression que je peux être que déçu par cette fin, mais c'est King, les fins sont nulles, faut pas se fier à la fin. La fin, c'est pas grave.
Si ça se trouve, ça finit pas, tu sais, vu qu'il est nul pour les fins, il s'est dit, tiens, cette fois-ci, je finis pas. Il laisse en suspens.
Attention, moi, mes meilleures fins pour lui, c'est les fins ouvertes, justement. Mais je crois que là, j'ai envie de... Bon, on verra.
Non, mais moi, je sens bien qu'il va finir avec une phrase qui finit pas, tu vois. Une phrase qui s'arrête en plein milieu.
Ah, ce serait pas mal, tiens.
Bon, on verra.
Et que c'est pour ça qu'il a fait le tome 8.
Qui c'est qui lit la question
suivante? Qui fait la suivante?
Allez, j'y vais.
Vas-y.
Ah.
Bah, vas-y, Emily.
Alors, c'est Jujuping, toujours sur le Discord de Podcut, qui nous dit « À cette étape de la quête de Tour Sombre, une toute petite question. Comment vous vous sentez? Prenez soin de vous et encore merci, vous êtes au top. Bisous cœur. » Ben, moi, bien. J'ai trop bien. Là de re-résumer la première partie du tome 6. En fait, j'ai trop hâte de commencer la lecture du 7. Parce que j'ai lu d'autres romans entre-temps. Il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée. Et comme on a dit, c'est pas un truc mémorable, donc c'est un peu passé, là. Mais j'ai trop hâte de redécouvrir ce qui va se passer, quoi.
Ouais, je suis un peu pareil. J'ai vraiment hâte de retourner à la fin, parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, les deux derniers tomes, je les ai vraiment lus quand ils sont sortis et je les ai jamais relus depuis et j'ai peu de souvenirs au final, à part la fin.
Est-ce que vous êtes en train de vous envoyer des messages tous les deux pour dire oh là là, lui et elle
On a dit ah, est-ce qu'il y en a qui chauffe, est-ce qu'il y en a qui chauffe pas, vous savez pas.
Moi en fait, il me tarde qu'on ait fini parce que trop de stress à savoir si. En fait, c'est même pas le stress, c'est même pas le truc de j'ai envie de connaître la suite. C'est non, je veux savoir si je vais souffrir ou pas. Là, je veux le savoir maintenant.
Bon, dis-toi que on est plus près de la fin que du début.
Ouais, t'as vu la taille du tome 7. Par contre, il me tarde de lire la suite du tome 6 pour de vrai. Là, j'ai envie de finir ce tome. Voilà.
Pareil.
Cool.
Émeric, Julien.
Oui, moi j'ai hâte de finir. Enfin, pas parce que je suis lassé ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de connaître la fin et savoir si ça va faire une fin comme dans Code Quantum.
C'est quoi la fin de Code Quantum?
Il décide d'aller aider son meilleur. Code Quantum, attends, si personne n'a vu Code Quantum.
Non, ça va, c'est, on peut. Non,
mais vas-y, vas-y, je pense qu'on en a parlé. Là, d'ailleurs, le saviez-vous?
Il y a un épisode de Code Quantum.
Oui, avec un personnage fictif.
Alors qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Ce qui fait qu'ils ont fait un. En gros, il y a un épisode où de mémoire, il voit son père, je crois.
Et il voit.
Il est avec son père, hein?
Non.
Au
c'est
bar,
pas son père, c'est un. C'est pas. Je crois pas que ce soit
c'est
son
Dieu?
Père, je crois que c'est un. C'est Dieu qui prend.
On
la...
Dieu, on
ouais,
sait plus.
C'est un barman.
Bon, c'est très proche.
C'est un barman qui on sous-entendu, ouais, c'est Dieu avec qui il parle, qui lui donne le choix de revenir au tout début et donc retourner en fait dans son temps.
Et ne plus
soit il
rien.
Peut aussi aller. Non, je suis même pas sûr. Je crois c'est rentrer carrément, rentrer et puis c'est fini. Soit il peut aller. Faire une dernière bonne action, c'est-à-dire aller aider son meilleur pote Al, qui l'a suivi et qui l'a aidé tout au long de ses aventures, d'aller prévenir la première femme de Al, qui va revenir du Vietnam, comme ça elle se remarie pas avec quelqu'un d'autre.
Ah oui, c'est
et
vrai
donc,
qu'il y a eu ça.
Voilà. Et comme Al ne divorce pas de sa première femme, et ça fait tout un enchaînement qui fait que il y a pas le programme Quantum. Et donc, il se retrouve le héros, Scott Bakulan est le héros, c'est... J'ai oublié le nom, bref. Il se retrouve coincé, et donc il est coincé dans sa boucle de... Sam Beckett est coincé dans sa boucle d'aller aider des gens à divers moments du temps.
Non, mais surtout, c'est juste un écran quoi, qui dit « il est jamais rentré chez lui ». Bah, c'est pas ouais, cool.
Ok.
Voilà, mais ouais. Je me dis peut-être que arrivé à la Tour Sombre, Roland pourra par exemple aller sauver Susanna. Attends, non, pas. Si. Elle s'appelle pas Susanna en vrai au départ.
Non, Delgado. Non, tu veux dire
Suzanne.
Ouais, non, Suzanne. Delgado.
Aller sauver Suzanne. Aller empêcher Eddie de sombrer dans la drogue. Empêcher que Jake soit tué, etc., etc. Mm. Peut-être, je ne sais pas.
Mm.
Bref. Donc j'ai hâte de savoir si c'est un truc comme ça ou pas. Une fois qu'ils ont réussi à sauver le monde. Enfin, les mondes. Ou ce qu'il en reste.
Question suivante.
Sur le Discord de Stephen King France, c'est David D. Ward qui nous dit « Qu'est-ce qui, pour vous, différencie ce cycle des autres œuvres de King ? En quoi est-ce une œuvre à part ?» Trois petits points, ou pas.
Bon, 7000 pages à peu près.
Hashtag, est-ce que Emily l'a relu? Et comme on l'a dit au début, Emily, elle relit toujours la Tour Sombre.
Oui. Pour moi, c'est le différencié des autres œuvres parce que c'est un cycle, déjà. Et que qu'il a fait des sagas, genre Mister Mercedes avec Holly Gibney. Maintenant, elle est dans 5 bouquins, donc il y a aussi un fil rouge là-dessus. Mais le truc de la Tour Sombre, c'est que c'est au centre de tout, en fait. C'est vraiment... il dit c'est la Jupiter du système solaire de son imagination, un truc comme ça. C'est vraiment...
C'est la tour de son univers.
Mais oui.
Tout ramène à la Tour Sombre. Tout est connecté via la Tour Sombre. Tout est à la Tour Sombre. Elle est au centre. Et puis, et sur les rayons, il a mis ses univers avec ses bouquins.
Peut-être qu'il va se sentir obligé d'en écrire un nouveau pour relier toutes les nouvelles histoires qu'il a écrites depuis.
Peut-être. Après, il a dit récemment qu'il en avait fini parce qu'il parlait toujours de la bataille de Jericho Hill qu'il voulait écrire. Et il a dit récemment qu'il y avait peu de chances que ça se fasse. Sniff. C'est fini la Tour
Moi,
Sombre.
Moi, je le vois pas vraiment. Enfin, oui, ça à part, bien sûr, mais je pense que tu le vis complètement différemment quand tu attends les sorties que nous, finalement, de pouvoir le lire d'une traite. Parce que je sais plus ce que t'avais dit, genre entre un volume et un autre, des fois, il se passait plusieurs années. Mm. Donc, je pense que c'est pas du tout le même game, quoi.
Sur les 4 premiers, ouais.
Petite pensée à ceux qui ont attendu 7 ans entre le tome 3 et le tome 4 et qui ont juste tapé le tome 4 avant d'attendre je sais pas combien d'années pour avoir le tome 5.
Oui, là, on l'a fait. Que l'histoire avance, ouais.
Ouais, là, on l'a fait d'une façon aussi. On a traité les livres avec les refs et tout avant. Donc, pour moi, c'est plus facile que je pense si tu les avais lus sans avoir forcément les refs et l'attente et tout, quoi.
Ah bah c'est clair que l'attente, déjà tu as tendance, quand ils sont sortis le tome justement 6 et 7, j'ai relu tout ce qu'il y avait avant parce que c'était tellement vieux que...
Ouais, c'est vrai.
Je me souvenais des noms de personnages et encore vite fait, mais ce qui leur était arrivé avant, j'avais plus rien.
Ouais, moi c'est pour ça que j'ai un souvenir un peu mitigé de la Tour Sombre, parce que j'ai mis tellement de temps entre chaque tome que j'avais oublié l'intérêt de certains personnages ou de certains événements. J'avais perdu un peu toute la cosmogonie, pour dire l'or en français, et du coup, ça m'avait pas autant accroché que là, ça m'accroche aujourd'hui, quoi.
Mmh.
Les autres, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe à la question?
Non, c'est juste long. Voilà, en quoi c'est différent.
Ouais, et puis après, moi j'ai l'impression qu'il y a très peu, enfin, il y a c'est peut-être une image fausse que j'ai parce que je connais pas tout, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de King qui se passe pas dans un monde assez réel, enfin, très réel.
Contemporain du temps d'écriture.
Voilà.
Ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai.
Il y en a très peu, et la Tour Sombre, c'est vraiment à part, du coup, dans ce.
Je suis d'accord, je rejoins Emmerich.
Dans ce style-là, ce fait-là.
Oui, et puis c'est là aussi où il y a toute sa mythologie. On comprend un peu aussi comment fonctionne ça, comment le cas, il est présent partout. Oui, c'est un peu...
C'est le Nouveau Testament de King.
C'est la grande, œuvre unificatrice.
Yep. Allez, question suivante.
Cypher. C'est Cypher? Cypher Z.
Cypher S.
Est-ce que ça vous paraît jusqu'ici très chant, comme promis par le titre, puisque le titre c'est le chant de Susanna?
Alors je sais pas si à l'écrit ça le fait, mais en fait à l'oral, en fait, à chaque début de partie, il y a un morceau de la chanson là que chantait.
Oui, à la fin.
Ah non, c'est à la fin du chapitre.
C'est à la fin du chapitre.
Ouais, ça résume en fait un peu ce qui vient de se passer.
Donc voilà, il y a ça qui fait chant. Et
à part ça,
j'aime pas trop ça. Ça me rappelle les passages avec des extraits de poèmes dans, je crois que c'est dans Le Seigneur des Anneaux, où t'as des morceaux de poèmes partout, ou dans un autre roman de Tolkien, je ne sais plus. Enfin bref.
Alors moi, j'ai même pas associé ça
me sort complètement,
au chant, en fait.
Ça me sort complètement de l'histoire, ce genre de.
Moi, je l'ai dit, toi.
Moi, j'aime bien, par contre. Mais par contre, pour moi, le chant de Susanna sera autre chose, genre chant d'agonie ou j'en sais rien quoi. Ou chant de renouveau. Enfin, voilà. Pour moi, c'est pas...
C'est peut-être dans la deuxième partie.
Ouais.
Un peu plus évident. Et alors, la dernière question. Urne, tu la poses?
Oui, par Saint Applejack, qui nous demande une chanson préférée à chanter en karaoké, sous la douche ou même bourrée. Alors, sachez que j'ai beaucoup fait de karaoké, genre deux fois par semaine, donc je n'ai pas besoin d'être sous la douche ou bourrée pour aller au karaoké.
Et alors, c'est quoi ta chanson
que
de karaoké?
Ma chanson préférée, c'était « Video Kill the Radio Star ».
Ouh, ouais.
Bon choix, les Bengals.
Oui.
Moi, ça serait une chanson en français, déjà, où je peux chanter très fort et très faux.
« Les lacs du Connemara ».
Non, pas celle-là, pas celle-là.
Terre.
Alors sache que le Connemara, parce que je m'entendais bien avec le gars qui faisait du coup les musiques, il le passait qu'une fois parce que sinon c'était vraiment trop le bordel à chaque fois qu'il avait cette chanson.
Cette hymne à la joie.
Terrible. Oui.
Du coup, ça serait quoi?
Je sais pas.
Moi, ça serait Fat Bottom Girl de Queen. Que j'adore, surtout le début, que j'adore hurler littéralement. C'est trop libérateur.
Ouais. C'est
Queen,
ça.
Il y a des trucs bien à chanter. Genre Don't Stop Me Now aussi, ça donne la pêche.
Ouais, carrément.
Ouais, ou Nena, Nine ou Nine Six, nous l'ouvre balance. En allemand, hein, la version allemande. Hein.
Ouais, ah oui, la version allemande, c'est clair. Je chantais en japonais aussi.
Ou sinon, la version française de Video Kill the Radio Star.
Ah, c'est laquelle déjà?
C'était Ringo, le grand corbeau noir.
Je sais plus.
Ça me dit rien.
En tout cas, sachez que de fréquenter souvent le karaoké, ça vous détruit beaucoup de chansons. Voilà.
Ah bon?
Ah oui, il y a des chansons.
Ah, ça te les gâche?
Ah oui, il y a des chansons, je peux plus les écouter parce que ça a été tellement gâché.
Ne viens pas avec
moi. Moi, c'est des sonneries de téléphone qu'on fait ça. Genre, j'avais quoi? J'avais du Youngblood ou du AC/DC pendant longtemps.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ou même j'ai eu des radotes en sonnerie de téléphone, ça me les a gâchés. C'est comme certaines pubs, genre La Poste, qui ont gâché Weezer, ouais. Les trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est ça.
Ouais, ben le karaoké, ça détruit beaucoup de choses.
Ah, dommage.
Ce fléau. Les gens qui chantent faux au karaoké.
Ah bah ça, c'est l'essentiel, c'est de t'amuser. Moi, j'ai rien contre les gens qui chantent faux. Par contre, ça m'énerve quand t'as des gens qui sont vraiment trop bourrés et qui chantent même
oui.
pas. Hein.
Enfin,
oui. Voilà. Mais chanter faux, c'est pas grave dans l'absolu, tu vois.
Un minimum de respect.
Moi, sachez que je chante tellement faux que même quand je chante bon anniversaire, mon copain me dit mais même celle-là, tu sais pas la chanter. je chante extrêmement faux. Après, je fais pas beaucoup d'efforts non plus parce que j'en ai rien à foutre de chanter juste. Mais je chante extrêmement faux.
Et je vous emmerde. T'as un petit côté Michel Sardou, toi, quand même. Hein. Ce petit côté rebelle.
Je l'ai. C'est juste que je veux bien arrêter de chanter même les bons anniversaires, mais bon. Voilà.
Bah, sache que ce n'est pas grave, tu peux quand même faire du karaoké.
Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien.
Oui.
Mais c'est pour ça qu'en Asie, c'est mieux d'avoir des pièces juste pour toi et tes potes pour chanter. Et pas au milieu d'un bar où on se donne en représentation.
Mais tu vois, moi, je suis pas très karaoké, et ça me botte de ouf. Mais il y en a dans plusieurs grandes villes françaises, notamment. Des comme ça.
Il me semble la mode est un peu passée quand même. Il y a 10-15 ans, c'était vraiment un gros boom, maintenant un peu moins.
C'est-à-dire que ça fait un an et demi qu'il y a Covid et tout ça, donc je pense que...
Alors ça, en plus...
Toutes les modes sont passées.
Mais même...
Les modes de sortie sont passées,
De se regrouper à plusieurs dans un endroit confiné. Le confinement, c'est bon, on a donné.
Et où tu hurles en plus, donc tu envoies bien du poustillon.
D'ailleurs, c'est dommage que Twitch ait arrêté... 1, 2, 3. C'est dommage que Twitch ait arrêté Twitch Sings. Tu pouvais faire des duos avec des gens, tu vois, c'était cool. En gros, t'as enregistré une moitié de vidéo, tu l'as publié, puis il y a des gens qui la prenaient et qui faisaient l'autre partie.
Okay. Oui, exact.
Bah, t'as des applis qui font ça, il me semble. Il y a des applis de karaoké.
TikTok.
Aussi.
Oui.
Tu l'as repris.
Je crois qu'il y avait une question supplémentaire, mais que tu préfères garder pour la prochaine fois, Émilie. J'ai cru comprendre. Parce que spoiler un peu.
Spoiler un peu, ouais. Donc on la gardera. Attends, je vais reprendre son nom pour lui dire désolé, je lui ai redit sur le Discord de toute façon.
Sinon, qu'il la remette, tu la copies dans le prochain.
Ouais, mais je vais pas la copier maintenant. Ouais, désolé, bon, bah, deal, on essaiera de pas t'oublier la prochaine fois. Ouais, sinon, je peux la mettre dans le conducteur dès maintenant et vous regardez pas tant que vous n'avez pas lu au moins 100 pages, quoi.
Oui, le prochain conducteur, il y a pas de raison qu'on aille lire les questions. Il est déjà, je l'ai déjà mis sur le Discord.
Oui, j'ai vu. Ouais, ok, bah, je vais faire ça alors.
Comme ça, au moins, on est sûr de pas l'oublier.
Tout à fait.
Bon, ben voilà. Là, on avait restreint les questions au Discord de Podcut et de Stephen King France, justement pour essayer d'éviter au maximum les spoils. Bon, on en a quand même eu un, mais on est passé grâce à Émilie au travers. Elle a réussi.
Un qui se joue vraiment sur le filet, parce qu'on a dit juste sur la première moitié. Et en fait, je pense que tu lis deux chapitres de plus et il n'y a plus de spoil, quoi.
Alors, moi,
vraiment,
je l'ai lu.
C'est sur le fil.
Ouais. Je l'ai lu en diagonale, la question, parce qu'on était en train de parler d'autre chose. Il n'y a rien qui m'a fait tilter. Alors, soit comme j'ai un tout petit peu avancé, peut-être que en fait j'ai déjà l'info et du coup, c'est pour ça que ça m'a pas... Mmh. Je sais pas.
On en a parlé avec Grand Poil.
Je me souviens même plus ce que c'était, la question. Donc,
au travers. Parfait.
Bon, ben on va se laisser là.
On a perdu Julien.
Eh ben oui, on a fini. Ah oui, il est toujours sur Don't Stop Me Now, là. Hein.
Julien, il nous fait un karaoké, mais muet ou presque.
Ouais, je chante, mais sans le bruit.
Du lip sync. Il fait faire un flash mob bientôt.
Est-ce que vous conseillez cette lecture pour démarrer King? Non,
pas vraiment.
Pas du tout.
Surtout un milieu de livre, tu sais. Genre, tu lis que la moitié et tu t'arrêtes.
Quand sortira cet épisode, on sera donc mi-octobre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le label Podcut est un label de podcast qui a 24, 25, 26 autres podcasts. Et actuellement, il y a une nouvelle fiction en cours. Donc, allez sur le flux Podcut Fiction pour la découvrir. Il y a un tout petit épisode par jour. Voilà. Si vous voulez nous aider, vous pouvez donner 1 euro ou plus au Patreon. Tous les liens seront dans les détails et aussi dans les bios de nos différents réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur le Discord du label Podcut pour discuter. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette d'échanger avec vous. Donc venez nous rejoindre.
Si vous êtes dans le 74, le suivez sur les réseaux sociaux du roi Steven, il se pourrait que vous puissiez croiser quelques-uns d'entre nous à une certaine médiathèque d'une certaine ville du 74 le 22 octobre. Voilà, on n'en dit pas plus, mais c'est en train de se faire.
Il manque pas grand-chose là.
Save the date.
Bah, quand on en saura, quand tout sera un peu plus calé.
Oui, ce sera officiel, surtout. Ouais.
La com devrait partir à l'heure où on enregistre aujourd'hui, normalement la semaine prochaine.
Au moment où on enregistre et le moment où ça sortira, normalement, la com sera faite, mais imaginons que d'ici là, il y a un truc qui fait que c'est repoussé.
Un nouveau variant. et on reconfine. Voilà.
Un panari.
Donc, voilà. et donc, on se donne rendez-vous dans un mois pour la suite.
Oui.
Du tome 6 de la Tour Sombre.
Tout à fait.
Oui.
Et après, on attaquera Insomnie, s'il y en a qui veulent commencer à attaquer le bouquin en même temps que nous.
On enchaîne
direct. Ou faire comme moi et attendre le tome 7.
Oui.
Je me souvenais pas. Quoi.
Tome 6, Insomnie.
Ouais.
Ok.
Tout à fait.
Et ça sera et après, en deux fois, Insomnie aussi ou pas?
Ah oui, hein.
Oui.
Ok.
Oui. Il est plus gros que ce tome 6 là déjà.
Donc, ouais, ça fait octobre là, ça tome va. 6, novembre tome 6, oui, toujours tome 6, décembre insomnie, janvier insomnie, peut-être que février on fera une petite nouvelle, un truc un peu léger, et après on rattaquera le tome 7.
Quitte à décaler, si vraiment on est en retard, on verra, on peut faire des petits hors-séries sur des sujets qu'on a déjà identifiés, des trucs qui prennent pas trop de temps pour en effet laisser une bonne lecture et un bon résumé.
Les hors-séries, c'est début du mois. On ne s'est pas engagé à ça, madame.
Pas de hors-série.
Bon, en tout cas, pour l'instant, niveau hors-série.
Je crois qu'on a perdu Emmerich.
À l'heure, il y en a marre. À l'heure où on enregistre, il n'y a aucun hors-série de prévu.
Oui, non,
c'est vrai. C'est vrai.
Ça va, Emmerich?
Oui.
Et donc, on aura bien mis 2 ans pour faire cette tour sombre.
C'est à toi.
Oui.
Plus, du coup. Plus, puisqu'on a commencé en janvier ou février 2019.
Ouais, c'est bon, à 2 mois
après... Et
puis,
il nous manquera le tome 8. Enfin, il nous manquera...
Ah bah non, parce qu'après, il y a le tome 8. Ça fera 2 ans et demi, en fait.
Ouais.
Ok, allez.
Ouais. Il ne veut pas avoir tort.
Et quand on aura fini, on aura mis la moitié du temps qu'on fait le podcast, ça aura été sur la Tour Sombre, à peu près.
On sait même pas souhaiter bon anniversaire. Je trouve ça triste.
Bah, c'est en mars.
C'est vrai.
Mais on n'a pas fait. On n'a pas fait une fête. J'ai pas eu un cadeau.
On est encore là, c'est déjà un cadeau.
C'est vrai.
C'est pas suffisant.
Ah, toi, t'es pas un cadeau. Hein.
Non.
On se fait des bisous.
Allez, on arrête.
On va se quitter là.
Allez, on s'est fixé comme objectif de faire 2h30 à tout prix. Ouais.
Pas de cadeau. Allez, vous dites au revoir. Allez, hop, hop, on envoie le générique.
Allez.
Bye bye.
Au revoir.
Au revoir. Bye bye. Des bisous.